Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission sur Génération Soccer. Alors ce soir nous allons parler et revenir sur les résultats de Ligue 1. Nous sommes donc en petit comité puisque je n'ai à mes côtés que Roméo. Bonsoir Roméo.
Salut Aurélien, salut à tous.
Bonsoir, et Jérémy.
Salut.
Bonsoir Jérémy.
Salut.
Donc il y a peut-être Habib qui va nous rejoindre, voir si note pour le quiz tout à l'heure. Alors nous allons donc, comme je le disais, revenir sur cette 12e journée de Ligue 1, en tout cas les matchs qui ont eu lieu ce soir. Alors je vais vous rappeler pour commencer les résultats avec les buteurs évidemment. Donc la victoire de Bordeaux à Chaban-Delmas face à Monaco 1-0 au but de Planus. La victoire d'Auxerre face à Montpellier 2-1, un doublé de Gélène pour Auxerre et un but de Zodic pour Montpellier. Le match nul au Vélodrome de Marseille face à Toulouse, un but de Brandao et un but de Sissoko. Le match nul de Lens face à Lorient à Bollard, un but d'Eduardo, un but de Sosa. La victoire de Nancy à Boulogne-sur-Mer, 2-1, des buts de Dia et de Hadji pour Nancy, un but de Cuvillier pour Boulogne. La 11e défaite de Grenoble-sur-Mer, de Grenoble en Ligue 1 face à Lille, 2-0, Lille a gagné 2-0 à Grenoble, des buts de Cabaye et Gervinho, et pour finir la victoire dans le derby Saint-Étienne-Lyon de Lyon à Geoffroy Guichard, un but de Gomis qui marque contre son ancien club. Alors je vais vous proposer de commencer par un match qui nous intéresse tous, comme on a un Toulousain et un Marseillais avec moi. On va parler de Marseille-Toulouse. Alors est-ce qu'on peut dire que Marseille en fait continue sa spirale un peu négative, puisque à part la victoire face à Nancy il y a deux semaines, Marseille avant avait enchaîné deux victoires dessus, deux défaites. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oui.
Vas-y Roméo.
Oui, j'ai pas entendu Aurélien. Donc par rapport au match, globalement, mauvais match de Marseille, très mauvais match. Au tout début, avant l'explosion donc de Pelé suite à ce tacle sur Niang, alors que Niang se dirigeait vers les buts. Alors oui, donc un petit problème. Avant ce tacle, Toulouse jouait assez haut. Marseille avait du mal à ressortir. Donc Marseille se faisait manger au niveau du milieu de terrain avec un milieu de terrain supérieur à Toulouse avec Machado, Sissoko et Capoue. Et on va dire que cette expulsion, déjà, elle a rendu beaucoup de services à l'OM parce que ça a permis la sortie de Machado. Et donc Toulouse est passé en 4-4-4. Et de suite après, on n'a pas vu vraiment de différence. Jérémy, tu peux confirmer?
Oui.
Parce que Marseille n'a pas attaqué dès le début. Ça a commencé à se mettre en place autour de la 35e, en fin de première mi-temps, mais pareil, c'était très brouillon. Il y avait très très peu de passes réussies du côté marseillais.
Quand tu dis que t'es déçu, je comprends, parce que jouer à 11 contre 10 et pas réussir à gagner, c'est toujours rageant. Mais dans le jeu, techniquement, c'est assez... Les combinaisons, c'est vraiment encourageant pour la suite. Mais bon, vous avez pas su... Là où vous pouvez être déçu, c'est à propos du réalisme. Vous avez pas su... 17 tirs, je crois, 17 tirs et un seul but. Et encore un but qui vient d'une relance assez moyenne de Blondel, même s'il a été énorme ce soir. Donc... oui, déçu, mais quand, faut dire que Toulouse, c'est assez, défensivement, c'est assez énorme, hein. Le match défensif qu'on fait, les défenseurs, c'est tous des guerriers, tous des joueurs qui se donnent à 300%. Et quand toujours le bon geste, Nunke, Congrès, c'est du haut niveau, c'est physiquement, ils sont bien su contre Niang et Brandao. Bon, Brandao, il met un but sur un super passe de Koné, au passage.
Oui.
Très bonne rentrée, qui a remplacé Valbuena, qui a pas été mauvais non plus. Donc voilà, un but comme ça. Toulouse a marqué Changou depuis arrêté et un sacré coup franc de Sissoko que je vous conseille.
D'ailleurs, sur le coup de pied arrêté, le voltigeur qui est Valbuena, il me semble, ne sort pas. Enfin, trop tard.
De toute façon, c'était le but ou la mort de Valbuena vu la puissance du tir. Donc je pense qu'il a bien fait de pas sortir, je sais pas où il aurait pris, mais bon, en tout cas le but est super et ça a permis aussi aux Marseillais d'exercer une pression. Ça les a motivés, même si comme tu l'as dit tout à l'heure, Toulouse à 11 contre 11, ben il y avait des bonnes ambitions. C'est dommage que l'expulsion logique de Pelé Casanova est obligé de sortir un joueur au milieu de terrain. Il a préféré de sortir, faire sortir celui qui apporterait le moins physiquement, parce qu'il savait qu'on allait subir. Exactement. Et donc il s'est dit autant garder les grosses masses physiques Capou, Sissoko, et donc enlever le plus petit gabarit, même si c'était la touche technique. Donc voilà.
J'ai une question, Jérémy, par rapport à Machado. Est-ce que la semaine dernière, il a encore positionné Machado dans un poste de milieu excentré, ou il a retrouvé son poste de relayeur?
Il a compris, ça y est. Il a compris. Et d'ailleurs, c'est au détriment de Dido qui se retrouve sur le banc. Il a pas joué aujourd'hui. Il a dû jouer 10 minutes contre Lens. Donc voilà. Donc, il a compris que Machado sur les côtés, c'était pas bon. Vu son gabarit, c'est... Surtout que bon, on dit qu'il peut jouer à gauche, on dit qu'il peut jouer à droite parce qu'il est assez polyvalent, mais genre comme Machado, c'est fait pour jouer au cœur de l'équipe. Et tant mieux, parce que Tabanou à gauche et Bratton à droite, c'est parfait. Donc voilà, donc il a compris, et on aura occasion de le voir contre Rennes au milieu, j'espère.
Oui, et donc pour continuer par rapport à l'analyse, en deuxième mi-temps. Oui. C'est avec la sortie de Valbuena, Marseille est passé en 4-4-2 avec Ben Arfa à gauche, Koné à droite et Niang dans l'axe. Et Niang d'ailleurs invisible ce soir, vraiment mauvais.
Ouais. Bah, il a été bien pris.
Bien pris. Et dans l'axe, il est encore moins bon que sur le côté, parce que dès qu'il a joué beaucoup de haut but, et de haut but avec ce bloc défensif toulousain, il était encerclé et il avait pas assez d'espace pour s'exprimer. Et c'est donc dans l'axe, il était encore moins bien que sur le côté. Et aussi, j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, Ben Arfa a repiqué dans l'axe, et comme il était positionné à gauche, il repiquait sur son mauvais pied à droite. Et donc c'est pour ça que Ben Arfa a pas été énorme ce soir.
Ouais.
Mais j'aurais préféré le voir à droite et peut-être Koné à gauche, voilà.
C'est sûr que il y avait vraiment du monde autour de Niang ce soir. C'était dur pour lui de se démarquer, de faire jouer ses coéquipiers. Donc il a pas eu énormément de déchets. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a provoqué de bons coups francs. Je crois qu'il a provoqué un ou deux corners. Donc même Niang, quand il est pas super en forme, ça reste quand même un joueur qui déçoit rarement. Il a pas marqué, il a pas été super dangereux, mais il faut dire que Toulouse qui défend comme ça, c'est assez dur de marquer. Et contre une équipe qui aura plus d'espace, on retrouvera le Niang qu'on connaît, quoi.
Oui, j'espère bien. Et là, Koné, je pense qu'on est d'accord, et il a gagné avec cette rentrée, sa bonne rentrée à Nancy. Et là, je pense que Deschamps devrait
faire
pour une prochaine place de titulaire à droite, pourquoi pas, avec Niang à gauche et Brandao en pointe. Brandao, malgré son but ce soir, c'est Brandao, il fait ce qu'il peut, il est assez malhabile avec le ballon,
il rate le 2-0 assez immanquable à la fin,
oui, parce qu'il saute trop tôt,
super parade de Pelé, et en fait il ne tête où il a plus qu'à la pousser, il se la met sur lui en fait.
Il rate complètement sa tête. Mais voilà.
Bon, il marque le but quand même et il reste important. Il a fait le travail.
À noter aussi la blessure de Lucho, qui est après
un impact. Il paraît que c'est pas si grave que ça.
Non.
Bon, je viens de lire justement sur le France Football, je viens de lire que son indisponibilité était mesurée à 3 semaines.
Ok.
Ouais. Donc ça perd. Il a pas été énorme ce soir en plus.
L'occasion de voir Abriel qui est. Il a pas beaucoup joué ce soir. Il est sorti à la 30e remplacé.
T'es sûr?
Oui, par Ben Arfa.
Ah d'accord.
Oui, non, tout à fait.
Putain, ouais.
Enfin, je dis 30e, mais je fais pas exactement attention au temps, mais.
Bah, je vais te dire ça.
Donc voilà, Abriel assez invisible.
40e.
Voilà, 40e, il est remplacé par Ben Arfa. Donc l'occasion de voir voir prochainement, à moins que Chirou ne revienne pas de blessure, et dans ce cas-là, ça serait un milieu Cissé en relayeur et Abriel en relayeur droit, je sais pas. Voilà, faudra voir à suivre la prochaine tactique marseillaise au niveau du milieu de terrain. Ouais. Et Dan nous demande comment il faut juger Brandao. Bah, il marque, mais le problème c'est que moi je pense qu'il faut pas s'arrêter seulement aux stats et voir l'apport, la part.
Dans l'effectif marseillais à l'heure actuelle, c'est Niang et Brandao, c'est les deux meilleurs attaquants. Donc
Non, mais de ce côté-là, je le préférerais toujours à Morientes qui vient.
Voilà. Deschamps, il fait ce qu'il peut et il a une bande d'eau parce qu'il marque des buts, qui pèse sur les défenses. Donc
c'est pour ça que je reste très mesuré, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup critiqué auparavant, mais par rapport à Morientes, il n'y a pas photo. Après, Brandao, il est limité, mais c'est le mieux qu'on puisse mettre en pointe. On va pas mettre Gnabouyou ou sortir un jeune de la réserve. Voilà. Mais et Brandao, il marque, mais il est pas énorme. Mais comme tu dis, on n'a rien à côté pour le mettre en concurrence.
Ouais. Donc voilà, on peut parler un peu du TFC. Donc
un dernier Bocali qui est titulaire. Il aurait mieux fait de rester Gary si on veut.
Tu tenais à celle-là.
J'étais obligé de la sortir.
Il a raté énormément de sens. On va retenir, il a fait un bon tacle sur Sissoko à un moment et c'est tout. Faut pas trop.
Ouais, voilà, c'est sa première, faut rester duré, mais voilà, on rentrera pas dans des détails de le remettre en question, mais je pense qu'on le reverra parce que Bonnard n'est pas bon, Caboret c'est pas un vrai latéral droit. Par contre, un truc dont je suis pas fan, c'est cette école de centre très très loin de la surface. Je sais pas si vous avez attention, mais comme Bonnard, Bocali centre très loin de la surface, dans le sens de la course de la défense, et souvent, la défense toulousaine, qui est en plus très très bonne, n'a pas été pris à défaut lors des
centres. C'était pas vraiment la tactique que t'as adoptée ce soir, voilà. C'est sûr. Surtout que c'était pas super précis, mais bon, comme j'ai dit, peu importe comment ils se sont pris, Toulouse était vraiment très très solide ce soir. Et bon, voilà, c'était un match qui, sans un exploit ou une erreur comme ce soir, c'était dur de marquer un but contre Toulouse. Donc voilà.
Oui. Et on a une réaction de David.
Ouais.
Qui me dit, on pourrait mettre Niang en pointe, Koné à gauche pour qu'il repique et Ben Arfa à droite. Dans ce style. Bon, je veux dire, à la base, au début de la partie, marqué sur l'écran, donc Niang en pointe. Mais pourquoi pas ce système-là avec des joueurs qui échangent leur position? Parce que c'est trois joueurs qui sont assez rapides, habiles avec le ballon et assez vifs. Donc pourquoi pas un 4-3-3 comme ça avec des joueurs qui permuteraient, et ça serait une bonne solution. J'avais pas pensé.
Bah écoute, c'est toi le Marseillais, hein, c'est toi qui juge.
À tester, hein, à tester. Voilà, c'est fini pour Marseille.
Oui, je vous ai laissé donc entre vous, puisque vous aviez vu le match et que vous en saviez beaucoup plus que moi. À noter que le prochain match olympique de Marseille, c'est en Ligue des Champions mardi face à Zurich, et en Ligue 1, ce sera dimanche soir face à l'Olympique Lyonnais, le grand choc de la semaine prochaine en Ligue 1.
L'Olympique, cher Grégoire Mardon.
Tout à fait. Par
contre, j'ai une question à te poser. Jérémy, enfin une remarque, c'est Halloween aujourd'hui, on est bien le 31.
C'est Halloween.
Toi qui es proche du TFC, tu pourras dire à Alain Casanova que se déguiser en paysan le jour d'Halloween, le jour d'un match, c'est pas très, pas très correct. Non, c'est une petite vanne par rapport à son kawaii, c'est assez de mauvais.
C'est toujours le même depuis la saison dernière.
J'imagine pas avec un costard comme Paolo Duarte.
C'est sûr qu'on peut pas prendre le vent en costard. Mais bon, c'est pas un entraîneur qui prend soin de son look, mais on n'est pas là pour ça.
Non, mais c'est clair.
Et bah très bien, après cette parenthèse vestimentaire, nous allons passer au prochain match, je crois.
Aurélien.
Oui, on peut parler.
Il semble que c'est...
Donc du premier carton.
On a parlé
du premier carton rouge de la saison.
Casanova.
Du premier rouge du TEF de la saison. Yohan Pelé sur une sortie. Il joue pas le ballon dans les pieds de Niang, donc Bah, il se fait sur très tôt. Donc Blondel qui est obligé de remplacer Machado. Et vraiment un match énorme de Blondel. C'est vraiment un super gars. Super état d'esprit. Donc il a sorti au moins 5-6 balles décisives dans la Ligue. Et il nous a sauvé ce soir comme Carrasco l'avait fait l'année dernière. Et donc le but, le cinquième but en Ligue 1 Sissoko sur cette fois-ci sur un coup franc indirect. Enfin, une petite Tabanou qui lui pousse la balle et Sissoko qui met une mine surpuissante dans la lucarne gauche de Mandanda. Ensuite l'attaque défense, c'est-à-dire Marseille qui attaque et Toulouse qui a dû subir tous les assauts. Et encore oui. Je t'écoute.
Non, vas-y, fini.
Donc tout ce qui s'en est bien sorti, même si on prend un but un peu bête. Tant mieux. Un point, c'est pas plus mal. Ça fait 3 matchs que le TFC ne perd plus. Donc on rattrape le retard petit à petit.
Oui, Toulouse qui confirme depuis quelques matchs qu'enfin qui se relance bien en championnat. Et puis aussi, je voulais te demander. J'ai lu tout à l'heure que tu entends parler de ça sur Soccers. Blondel a commencé la saison, il me semble, et il a plutôt été bon. Et puis après, a été Pelé quand il est revenu de sa blessure. Et là, Blondel fait encore ce soir un match énorme, ce qui était Pelé a fait des bons matchs. Je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Mais est-ce que le match de ce soir de Blondel ne remet pas en cause la place de titulaire de Johan Pelé?
C'est vrai que son début de saison, il avait déjà remis en cause. Hein. Pelé, il aurait du mal à gagner sa place. Mais bon, les prestations de Pelé... elles ont été toutes bonnes, donc c'est difficile. Casanova, il a un choix à faire. Et dans sa tête, c'est Pelé numéro 1, Blondel numéro 2. On a la chance d'avoir deux super gardiens, deux gardiens qui ont le niveau pour être titulaire dans des clubs de Ligue 1. On a la chance aussi d'avoir Blondel qui a un super état d'esprit. Et donc voilà, donc un entraîneur, il a des choix à faire et c'est comme ça. Donc ouais, Roméo.
On a une réaction de Nicolas Ouem qui nous dit que Koun est trop drôle ce soir. Excuse-moi Nicolas Ouem, je crois que tu t'es trompé de topic, le topic des trisomiques. C'est pas ici, c'est pas sur Gélin, c'est sur Kier, c'est pour tout et n'importe quoi. Voilà. Merci.
Merci Roméo.
Ouais. Vas-y.
Et Jérémy, je voulais aussi te demander, par rapport à Gignac, son match ce soir, il marque pas alors avant il avait toujours marqué au Vélodrome, que ce soit avec Lorient ou avec Toulouse. Et pour une fois ce soir, il casse la statistique, qu'est-ce qui lui arrive?
Il m'est arrivé que c'était difficile pour nous de ressortir la balle vu la pression marseillaise. Il a eu une occasion au début de match où il dribble Hilton et Mandanda gagne son duel. Après, il a essayé de jouer assez bas puisque ça servait à rien de rester planté tout seul devant alors que Marseille faisait le rythme, attaquait sans cesse. Il a eu deux occasions à tout casser et il a pas vraiment eu l'occasion de marquer. Il a jamais perdu au Vel et au moins ça c'est une statistique qui se confirme.
Voilà, c'est important cette statistique. Eh bien, je crois que vous avez tout dit sur Marseille-Toulouse ou à part si vous avez quelque chose à rajouter. Mm-hmm. Sinon, on va pouvoir passer au prochain match.
Rien à rajouter.
Très bien. Donc on va pouvoir enchaîner sur Auxerre, une équipe chère à notre consultant Rémi. Oui. Roméo.
Non, à part que maintenant Marseille compte 7 points de retard sur. Sur les Girondins de Bordeaux. Oui.
Mais à un mois de chambre, il faut le dire. Sûr. Et Auxerre, donc l'équipe chère à notre consultant Rémi, qui a gagné 2-1 face à Montpellier, et qui continue son impressionnante série de victoires et se replace et cinquième actuellement, si je ne m'abuse, et qui continue avec un Gélène très inspiré qui mène son équipe vers le haut, qui a son quatrième but. En Ligue 1 depuis le début de la saison, sachant qu'il est de retour de blessure depuis que quelques matchs. Donc vraiment une équipe d'Auxerre qui avait très mal débuté le début de saison et qui là nous fait un mythe excellente et qui se place en haut. Et puis la semaine dernière on parlait de Monaco qui a pas confirmé soir mais c'était face à Bordeaux. On parlait de Monaco qui revenait et tout. Et est-ce qu'on serait en train d'assister cette année au retour des vieilles gloires comme Monaco, comme Auxerre, enfin des vieilles gloires du début des années 2000 qui avaient disparu en fin de parcours vers les années 2004-2005. Ce serait-elle de retour, votre avis?
Vas-y, Roméo.
Je suis désolé, mais honnêtement, j'ai pas du tout écouté. Excuse-moi.
Ah.
Jérémy, tu aurais quelque chose à dire.
Ouais, ben,
et ben, je disais que je demandais si on assistait au retour des anciennes gloires du début des années 2000, qui étaient Auxerre et, ou même des années 90, bah, qui étaient Auxerre et Monaco, qui avaient disparu en fin de parcours au début du 21e siècle.
Bah, par rapport à Auxerre, on l'évoquait dans une émission précédente qu'il y avait Rémi d'ailleurs, parce que Auxerre démarrait assez mal la saison, et la réaction qui est revenue, c'est, Auxerre c'est un diesel, et bah, ils le prouvent, ils mettent du temps à se mettre en marche, mais une fois que c'est, la Auxerre est en marche, ça fait assez mal. L'année dernière, ils ont mis encore plus de temps, ils se sont réveillés sur la fin, mais ils ont été excellents avec un Yélène exceptionnel. Et là, bah, Auxerre, je dirais pas quand même le retour du grand AJ Auxerre des années 2000 qui gagne à Highbury, mais un AJ Auxerre qui peut prétendre à la première partie de tableau sans aucun complexe.
Bah oui, ouais. Tu viens de le dire, bah, c'était des équipes qui, ouais, comme tu l'as dit, début 2000, ils étaient cartonnés, Monaco, finale des champions, Auxerre qui fait des matchs héroïques partout en Europe. Et ils ont un coup de moins bien, et il a fallu quelques années pour se remettre en route, et là ils sont en train de confirmer, bon, il y a eu que 12 journées, mais il faut confirmer sur la durée, mais c'est bon signe, avec des bons recrutements, des bons choix et une stabilité avec les entraîneurs qui restent, comme Jean Fernandez par exemple, que ça fait quelques années maintenant qu'il est à la tête de ce club, qui connaît bien la maison. Et côté Monaco, c'est pareil, même si il y a eu un nouvel entraîneur cette année, c'est un recrutement malicieux de bons joueurs qu'on connaissait pas, comme Park, Néné qui se relance en France, et des, faut dire, un super mercato avec Coutadeur, Fujimi Traoré, Eduardo Costa, plein de joueurs, plus les Ruffiers et toute la clique qui sont déjà des valeurs sûres du club, donc des clubs, les vieilles gloires comme tu dis, qui pour moi sont bien partis pour finir dans les 7 premiers cette année.
Ouais, et puis justement, tu t'as un peu ouvert notre prochain match, on va parler de Monaco, mais avant je voulais finir sur Auxerre en disant que déjà, comme tu disais, la stabilité commence à payer avec Fernandez, ça fait un bout de temps qu'il y est, et on peut voir cette année, et même la fin de la saison dernière, qu'il commence à y avoir des résultats. Et puis je sais pas si vous vous en souvenez, l'an dernier Auxerre avait fini comme un boulet de canon, notamment grâce à Yélène. Ils avaient pas su confirmer en début de saison, mais Yélène était blessé, et là on voit qu'Yélène est de retour de blessure, et comme par hasard Yélène revient, il est en pleine forme. Auxerre repart et recommence sa série comme l'an dernier. Donc,
L'année dernière, il ne fallait pas compter sur Nicolai pour marquer des buts. Donc quand Yélène n'était pas là, c'est sûr qu'il y avait une panne de buts. Et dès son retour, Yélène, c'est l'efficacité, c'est la technique, c'est la vitesse. Et c'est un attaquant super complet. Donc il fait du bien à l'équipe comme il ferait du bien à toutes les équipes de Ligue 1. Et, ouais. Et vu qu'Auxerre, c'est une bonne équipe qui joue un jeu assez sympathique, qui arrive à se créer des occasions, bah avec un bon attaquant devant, bah ça marque des buts. Et dans le foot, pour gagner, il faut marquer des buts, donc voilà.
Ça paye. Oui, Yélène, qui est un des joueurs, enfin pour ceux qui suivent le foot, non, mais qui est un des joueurs les plus méconnus de Ligue 1, qui aurait, en tout cas, vu ses performances à Auxerre, aurait son niveau dans n'importe quelle équipe de Ligue 1 actuellement. C'est un des... Puis Auxerre qui a une équipe... sympathique et qui continue avec des joueurs comme Pedretti qu'on a l'impression de retrouver depuis Sochaux, etc., et qui fait vraiment un très bon début de saison. Oui, Roméo, tu voulais rajouter quelque chose.
Il avait fini la fin de saison en trombe en rejoignant Oaro en troisième position du classement des buteurs, et là, depuis son retour, c'est un AGA transfiguré, et bah il part bien là pour faire une nouvelle belle saison.
Ouais. Donc, si Yélène ne se blesse pas, si Yélène a ce même niveau toute la saison, on peut faire attention à Auxerre pour Monaco, justement, on va passer à Monaco, comme Monaco peut être redoutable si Yélène reste aussi bon depuis. Oui, vas-y. Bien.
C'est pas Auxerre, c'est Auxerre.
Oui, je sais. Depuis tout à l'heure, j'ai galère.
Très attaché à la prononciation paysanne, donc on va garder les valeurs prolétaires pour faire plaisir à Rémi, c'est Auxerre et pas Auxerre.
Ouais. Non, mais je le sais en plus, parce qu'on dit Bruxelles et pas Bruxelles. Oui, on m'a déjà fait la remarque. Et j'habite à Bruxelles. Bref, enfin, hors sujet. Voilà. Donc, je disais, Yélène qui confirme et qui maintient Auxerre vers des sommets qu'il n'avait pas envisagé en début de saison. Et Monaco qui a perdu face à Bordeaux, à Chaban-Delmas 1-0 et qui n'a pas pu compter sur son aîné qui lui permet depuis le début de la saison d'être en haut. Alors un avis sur la victoire de Bordeaux qui confirme de nouveau son statut de leader de la Ligue 1 et puis Monaco qui n'a pas su créer la surprise pour éventuellement détrôner Bordeaux de sa première place.
Et Roméo, Bordeaux qui marque encore une fois sur coup de pied arrêté.
Voilà. Donc, et encore un défenseur et pas un attaquant.
Ils sont toujours là quand il le faut, donc ouais. Bon, ouais. Bah, Bordeaux, on peut dire, on le sait, de toute façon, c'est pas très une bonne surprise de les voir gagner, hein. C'est supérieur à Monaco, même si Monaco, c'est tout à leur honneur, leur début de saison. Le Bordeaux, à domicile, je pense, c'était en plus, un patron, quoi, que dire. Ils sont au-dessus dans tout domaine, ils ont géré leur match et ils ont su marquer quand il fallait, ils ont géré le score ensuite et voilà. Une victoire qui leur permet de conforter leur avance et de distancer Marseille et de maintenir l'écart entre eux et Lyon.
Oui, parce que maintenant Bordeaux est à, comme disait Roméo tout à l'heure, est à 7, mais a mis Marseille à 7 points. Monaco, je vous dis ça, j'ai mon classement qui bug. Monaco voilà 4 points et Lyon à 2 points, donc c'est tout bon. Bordeaux sort fait une bonne opération en mettant Monaco à 4 points et surtout en mettant Marseille à 7 points, même si Marseille a un match en moins, il faut le préciser, après le report du match au MPSG dimanche dernier. Oui, Romain, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, bah match maîtrisé, hein, de la part de Bordeaux qui malgré donc un but sur coup de pied arrêté, mais bon, on parle souvent de Bordeaux qui marque sur coup de pied arrêté essentiellement, mais c'est aussi une chose de savoir bien les tirer, bien les jouer et de marquer aussi souvent, parce que si c'était aussi simple, il y aurait plus d'équipes qui marqueraient sur coup de pied arrêté. Voilà.
Non mais c'est bien de le reconnaître.
Non, je suis pas de ceux qui ragent sur les victoires bordelaises acquises grâce au coup de pied arrêté.
C'est une équipe qui maintient de la pression et sur les coups de pied arrêtés avec les tireurs, avec les joueurs qui montent, des chamacs, les joueurs de tête, tout ça, c'est dur de résister. Et en plus ils ont confiance, donc il y a toujours, en plus ils s'ancrent énormément, ils ont énormément de coups de pied arrêtés dans un match et il y en a forcément un qui passe, donc tant mieux. Quand ils arrivent pas à marquer dans le jeu, ils arrivent à marquer sur les coups de pied arrêtés. C'est aussi ça, la force d'une grande équipe qui marque.
Et puis à noter que Bordeaux n'a pas perdu à Chaban-Delmas depuis 39 rencontres, ce qui n'est pas une petite stat. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1
qui ont une histoire d'affilée à l'Espure.
Ouais. Il y a Grenoble qui va bientôt faire l'inverse.
Oui.
En 9 de
et bah, ouais. On va parler de Grenoble. Si vous, à part si vous avez quelque chose à rajouter sur Bordeaux-Monaco, on va pouvoir passer.
On peut y aller.
Si vous voulez à Grenoble. Vas-y, bah donc on va revenir sur Grenoble qui égalise le record de Ligue 1 avec Strasbourg qui était de 11 défaites consécutives. Et ce soir, ils ont encore perdu, une fois de plus perdu. 2-0 face à Lille. Des buts de Cabaye et Gervinho pour Lille. Et puis à noter, c'est vraiment pas son année pour Djemali puisqu'il a été encore une fois expulsé après les buts contre son camp, les pénalties à cause de lui, etc. La mauvaise période continue pour Djemali et puis plus globalement pour Grenoble qui part droit vers les sommets, plus qu'une défaite et ils égalisent le record européen avec Manchester United qui est 12 défaites consécutives. Donc allez Grenoble, vous êtes près de l'exploit.
Vous pouvez
je rigole. Faire. Un mot sur Lille ou sur Grenoble tous les deux?
Rudy Garcia a enfin découvert qu'il avait un joueur qui s'appelle Gervinho dans son équipe, il y a peu. Il a fait cette découverte.
Il n'y a rien de choquant que Grenoble perde contre Lille. Lille se relance. Ils ont perdu contre Auxerre la journée dernière, donc il fallait absolument gagner. Ils l'ont fait. Donc voilà, on est triste pour les Grenoblois, mais c'est comme ça. C'est vrai que moi, leur effectif, quand je le vois, c'est... Techniquement, c'est vraiment assez faible. Ils ont des genres d'expérience, mais quand la technique n'est pas là, offensivement, c'est le désert. Et ils vont pas s'en sortir aussi facilement que ça. Ça va être très difficile. Et je souhaite bon courage aux Grenoblois parce que c'est en galère.
Ouais. Ça doit être très dur d'être, de supporter Grenoble en ce moment. Oui, je...
D'ailleurs, on en profite pour passer un petit coucou à Narpi. Voilà. On lui en passe un toutes les semaines, on espère qu'il reviendra.
Oui, toutes les semaines. Voilà. Et puis pour revenir sur Grenoble.
Moi, la première victoire. Hein.
Moi, ce qui me faut revenir sur Grenoble, j'ai une petite frayeur parce que dans deux semaines, on les joue. Et je me dis qu'ils vont nous battre, ils vont mettre fin à leur série face à Lorient. Enfin bref, ça c'est personnel. Oui, qu'est-ce que il y avait Dan qui voulait qu'on revienne sur ce qui a changé, ce qui fait que Grenoble cette année est aussi bas alors que l'an dernier ils étaient plutôt, ils avaient fait un très bon début de saison et après ils avaient su rester.
Ben sûrement l'euphorie.
La 10e et 20e.
L'année dernière ils avaient l'euphorie de la Ligue 1, ils découvraient, ils étaient tout heureux, ils avaient rien à perdre. Et donc au Grenoble, on les prenait comme une équipe, une petite équipe, un petit promu, et ils arrivent à faire les coups avec notamment la victoire contre Paris au Parc, contre Rennes à domicile. Donc voilà, avec un accro qui a fait un super début de saison avec des recrues intelligentes, Batless et un Grégory Vembe très bon dans ses cages, une bonne équipe équilibrée. Même s'ils étaient relâchés sur la fin, ils avaient fait les efforts nécessaires en début de saison et ça leur a permis de se maintenir. Cette année, ils s'aperçoivent que il n'y a pas eu un gros mercato de leur part et avec une équipe qui était déjà limitée, surtout que les autres équipes en Ligue 1 se sont encore plus étoffées, c'est difficile pour eux de tenir le choc.
Oui, sachant qu'en plus. Comme on dit souvent que pour une équipe qui monte en Ligue 1, c'est pas la première année qui est la plus difficile, mais la seconde, parce qu'il faut confirmer. Et Grenoble, pour le moment, n'y arrive pas et on voit pas comment ils pourraient se maintenir. Mais on sait jamais. Il y a déjà eu des miracles et ça peut arriver. Et oui, je voulais rajouter un mot sur Lille. Oui, sur Lille qui se relance puisqu'ils reviennent à 6 points des places pour la Coupe d'Europe, qui est leur objectif. Et puis enfin, comme disait Roméo, Garcia qui aligne enfin les deux joueurs stars de Lille, enfin les deux, le petit prodige belge Eden Hazard et la recrue phare du mercato lillois Gervinho ensemble. Et puis on peut voir que ça marche avec un 4-3-3 à la lyonnaise, 4 défenseurs, 3 milieux et puis 3 attaquants, le trio Gervinho Hazard à gauche, Gervinho à droite et puis Pierre Linfro devant. Et puis pour l'instant. À part face à Auxerre la semaine dernière, ça semble marcher, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1, et du coup Lille qui se relance et qui doit confirmer.
Speed. Ouais. Ils sont 14e maintenant.
Voilà. Qui s'éloigne des relégables. Eh bien, si vous avez quelque chose à rajouter, on va pouvoir passer au match suivant.
Allons-y.
Ouais. Alors donc nous allons passer à Boulogne-sur-Mer et non pas Grenoble-sur-Mer comme j'ai pu dire tout à l'heure, qui a perdu face à Nancy 1-2. Des buts de Dia et d'Adji pour Nancy, je le rappelle, et de Cuvillier pour Boulogne-sur-Mer. Alors un mot sur les deux équipes, avec Boulogne qui donc se retrouve 17e de Ligue 1 et à égalité de points avec le premier relégable Lens. Et par contre Nancy qui se relance dans la première partie de tableau et qui est ce soir provisoirement 8e. Un petit mot sur les deux équipes, sachant que
pas grand chose à dire sur Boulogne si ce n'est que Cuvillier que la marque il avait l'air voilà, on a senti qu'il avait pas trop l'habitude, quoi. Il savait pas quoi faire après le but, comment je fais pour le. Non, mais sinon, non, rien à dire sur Grenoble. tu vois, je me trompe comme toi.
C'est oui.
Grenoble voilà. Sur mer.
Sur Boulogne, ouais.
Sur Boulogne, voilà. Non, rien d'autre à dire.
Ouais, la saison s'annonce compliquée. Avec ce soir, il me semble, la première, en tout cas. Moussilo était titulaire pour Boulogne-sur-Mer, ça a pas l'air de. Je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des Boulonnais qui pouvaient. Voilà. S'il y avait des Boulonnais qui pouvaient nous dire si sa prestation était bonne, en tout cas, ce soir il a joué son premier match, en tout cas il a pas marqué. Donc ça a pas été, on sent satisfaisant, et puis Boulogne qui perd encore et qui va devoir se ressaisir dès la semaine prochaine face à Lorient. Comme ça me fait une jolie. Parent. Voilà. Une jolie annonce pour passer au match suivant. On va rester
petite
dans
transition.
Le Nord. Voilà, tout à fait. On va rester dans le Nord avec Lens-Lorient qui avait lieu à Bollaert. Et puis, on attendait une réaction des Lensois après plusieurs défaites consécutives. Et puis, ils ont su aller chercher un match nul à domicile. Les buteurs, Sosa à la 42e et puis Eduardo à la 49e. Alors, comme j'ai pu voir le match, ça va être je vais faire un petit résumé. Alors, on pouvait, Jean-Guy Valem, avec cette semaine, demandait à ses joueurs de se révolter et d'aller chercher un très bon résultat à Bollard. Je pense que ce n'est pas le cas ce soir. Même si c'est vrai que son équipe a été plutôt dominatrice sur l'ensemble de la partie et que Lens s'en sort bien en allant chercher le match nul. On a pu voir lors des 15 premières minutes une très bonne équipe lensoise qui a vraiment poussé. Moi je pensais qu'ils allaient marquer rapidement et tout, j'avais vraiment peur. Et puis après ils ont pas vraiment eu d'action franche et du coup après ils ont renoncé, etc. Donc on a eu plus le ballon. Et on n'a pas non plus été inquiétant non plus. Et puis à un moment, on a commencé à aller de l'avant dans les 15 dernières minutes. Et puis là, Gamero qui déborde à droite. Et puis Sosa qui était tout seul, on ne sait pas pourquoi, vraiment tout seul, qui met un splendide but. Et puis on ouvre le score. Et là, je me dis, ah c'est tout bon, on va gagner et tout. Et non, en deuxième mi-temps, Lens revient plein de bonnes intentions avec un stade Bollard qui était chaud bouillant. Et Eduardo qui marque, qui trompe au dard, et donc égalité. Et puis après, Lens a tenté, et n'a pas réussi à marquer, a pas eu vraiment d'action franche, et n'a pas réussi à ouvrir le score face à une équipe de Lorient qui a plutôt regardé, qui a pas essayé de. On a été décevant ce soir, on n'a pas essayé d'imposer notre jeu, on n'a pas réussi, je sais pas. Comme face à Sochaux la semaine dernière, on a eu des problèmes dans la construction, etc. Même les rentrées de Mansouri et de notre Zambien Sazaouka n'ont pas apporté le petit plus qu'il fallait pour l'équipe. Donc l'an dernier, on avait fait un mauvais début de saison, puis un bon début, puis après on s'était mieux relancé, et après on avait fait 10 matchs sans victoire. J'espère que ça va pas faire là comme l'an dernier après la défaite face à Sochaux. Et puis là, le nul à Lens, même si faire un nul à Lens, même si en ce moment ils sont pas bien, c'est toujours un bon résultat. Et donc la semaine prochaine, on va accueillir un moustoir Boulogne-sur-Mer et il faudra aller chercher d'aller 3 points pour espérer faire un petit truc dans le haut de classement. Sinon, on va reprendre nos objectifs, fini les rêves comme je pouvais dire il y a quelques semaines, et puis on va reparler de maintien. Et puis de toute façon, à Lorient, ça nous fait plaisir le maintien. Donc
bon, quand on bat Toulouse à Toulouse, on peut bien battre Boulogne à domicile.
Oui, oui, quand même.
Je me fais pas de soucis pour vous. Dans le jeu, dans les envies, dans les ambitions. Offensivement, vous avez des joueurs, pour moi, techniquement, c'est au top. Gamero, Vaira. Après, vous avez Mvuemba, le petit Diarra, qui sont des petites révélations, qui se défendent.
Oui, qui a été décevant d'ailleurs ce soir.
Ça veut dire qu'il a commencé à faire son trou, alors. Si, quand il est pas bon, Lorient ne joue pas, enfin, n'arrive pas vraiment à gagner. Mais, hormis ça, avec votre coach, votre façon de jouer, votre style de jeu et vos joueurs, vous avez toutes les cartes en main pour finir dans les 10 premiers, même si vous espérez finir un peu plus haut. Car c'est vrai qu'on voit votre jeu, on se dit qu'il y a vraiment les moyens. C'est dommage parce que peut-être que si vous aurez recruté des joueurs un peu plus étoffé, vous aurez pu vraiment afficher une ambition d'entrée, tandis que là, ça reste assez. Je sais pas si tu penses comme moi.
Ouais, si. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais bien voulu qu'on recrute des joueurs beaucoup plus étoffés, qu'on garde Gabriel, Jallet et tout le monde, mais ouais, on n'a pas les moyens. Donc.
Pas mal de pertes aussi.
Ouais.
Mais bon, monter Rubio et c'est pas mal non plus. C'est un bon choix.
Oui, d'ailleurs, je tenais à saluer le public lensois qui a fait une standing innovation à Monterobio. C'était vraiment sympa de leur part. Ils ont pas oublié tout ce que Monterobio avait apporté à Lens. Et puis, Roméo, je crois que tu voulais dire un truc.
J'ai une petite statistique par rapport au match Lens-Lorient. Donc, Lens et Lorient se sont affrontés 4 fois depuis la création du football, du championnat professionnel de première division française. Il y a eu 4 matchs nuls. Et 4-1-1. Ouais. Que des 1-1.
Oui.
Pour des matchs, c'est intéressant de savoir.
Ouais, moi, il y a des buts. Ouais. Ouais. Ouais, mais il n'y a pas. Ouais. Voilà, sachant que voilà, pour la petite histoire, là, le dernier Lens Lorient, j'y étais et puis c'était un match un peu tristounet comme ce soir. Voilà. Ouais. Donc Lens qui permet un sursis à Jean-Guy Wallem et puis qui se laisse un peu d'air quand même au niveau des relégables quand on regarde le classement puisqu'ils reviennent au niveau de Boulogne-sur-Mer même s'ils sont toujours relégables.
Sursis ou pas.
Et voilà, et il va falloir qu'ils gagnent qui commence à gagner pour pouvoir sortir de la zone de relégation.
Oh, sinon, on rappelle Giroud et voilà, quoi.
Très bonne idée. Non, je ne suis pas sûr que ça ferait plaisir aux supporters. Voilà. Et sinon, Lorient qui perd des places dans le classement, puisqu'on est provisoirement 7e, et selon les résultats de Rennes et de Valenciennes et de Sochaux demain, on pourrait rétrograder au classement et finir 10e comme notre classement l'an dernier. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a dit sur Lens-Lorient, à part si vous voulez rajouter un petit mot.
Pour ma part, rien à dire de plus. Voilà.
Et Roméo, non. Donc, je vais annoncer Habib. Bonsoir, Habib.
Bonsoir, tout le monde.
Es-tu là?
Oui.
Ça va?
Oui.
As-tu un mot à dire sur Lens-Lorient, ou tu n'en as rien à faire?
Non.
D'accord. Eh ben, on va pouvoir passer au...
Sans opinion.
D'accord. Et ben on va pouvoir passer au choc de la soirée. Le match de 21h et le dernier match auquel on n'a pas parlé. C'est-à-dire le derby du Rhône entre Saint-Étienne et Lyon. Et c'est Lyon qui a gagné 1-0, un but de l'ancien Stéphanois Gomis. Et à noter que cela fait depuis 1994 que Saint-Étienne n'a pas gagné contre Lyon lors du fameux derby.
19 matchs.
Voilà. Et donc Gomis, le fait du match important, c'est Lyon qui après deux défaites consécutives gagne à nouveau et se relance en championnat puisqu'ils sont toujours, ils gardent la
deux
distance avec Bordeaux. Ils ont toujours deux points de retard sur Bordeaux, donc ils perdent pas la distance avec Bordeaux. Surtout que là ils avaient des matchs compliqués à anticiper, donc ils commencent bien la semaine difficile. Après ils avaient Saint-Étienne à l'extérieur à jouer, puis Liverpool à domicile, puis Marseille à domicile. Ils ont pour l'instant ils ont bien commencé. Il faudra voir s'ils continuent dans cette semaine. Et puis à noter le fait important quand même, c'est Gomis qui marque contre son ancienne équipe et
qui rentre et qui marque.
Voilà, voilà. Très bon coaching encore une fois de Puel. On est surpris, oui, de le dire plusieurs fois cette saison.
Il faut bien. Ouais. Dans ces matchs-là, il n'y a pas vraiment de différence de niveau. On l'a vu, il y a eu deux barres côté lyonnais, une barre côté stéphanois. Le match aurait pu s'ouvrir plus rapidement dans la partie. Bon, il a fallu attendre le but de Gomis pour débloquer tout ça. Et Lyon qui, sans souci, a géré le score les 10 dernières minutes de ce match. Ouais. Et donc voilà, une victoire de plus, quoi.
Voilà. Vraiment, donc Lyon qui... Lyon qui va devoir affronter Liverpool mercredi. Liverpool qui a encore perdu 3-1. Donc on peut penser que Lyon peut aller chercher le match nul largement mercredi pour aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions dès mercredi et préparer de la meilleure des façons le choc face à Marseille la semaine prochaine qui va être primordial puisque l'équipe qui va perdre les deux équipes font match nul et que Bordeaux gagne, elle perdrait de sérieux points dans la course au titre, même si on n'est qu'en début de saison, mais tous les points perdus sont importants et on le voit là.
Pour le côté mental et confiance, c'est important de gagner ces matchs. Quand on se mesure aux adversaires directs, c'est presque un match à ne pas perdre. Donc voilà. Donc c'est une bonne façon pour Lyon de préparer ce match, même si entre temps il y a le choc contre Liverpool. Ce serait un bon coup pour eux de se qualifier et d'enchaîner victoire à Marseille, mais bon, on n'est pas encore là. On a le temps.
Voilà. Rien d'autre à dire, Roméo?
Non, rien du tout.
Si ce n'est que Saint-Étienne n'a pas gagné contre Lyon à Geoffroy Guichard depuis 1994. Ça commence à dater.
Oui, merci.
Tu t'es à peine né.
Et puis, voilà.
Déclaration.
Ouais. Et puis
qui vient d'arriver. Je la lis.
Oui,
pas.
On a fait. Vas-y, attends. Avant, je pars. Bon, on a fait le tour des matchs Ligue 1 et puis on allait passer à l'international. Mais il y a une petite déclaration là qui vient de tomber par l'AFP. Donc Roméo va nous en faire part parce qu'il faut absolument
Nicolas sur cette qui se fait encore une fois remarquer pour sa classe. Il dit la victoire de Auxerre était méritée, mais au match retour, on va s'occuper de Benoît Pedretti. Ce type est une petite tardouse, a déclaré donc le président au micro de Canal+. Au micro de Canal+, Pedretti lui a répondu: j'ai beaucoup de respect pour l'homme et pour tout ce qu'il a apporté au football français, mais entendre de tels propos est inacceptable. Bon, en même temps, il n'allait pas le remercier de l'avoir insulté.
Un petit fight Nicolin Pedretti, ce serait pas mal vu la différence de gabarit.
Ah, ouais.
c'est vrai que.
Et ensuite, on va organiser une baston entre Théo et Valbuena. Et le dessert, ce sera Romario contre Kohler, non?
Non, mais en plus, Nicolas, il me semble qu'il avait déclaré que ses déclarations comme ça qu'il fait à chaud. Ensuite, il les regrette, donc c'est dommage qu'il s'emporte de dire des choses comme ça. Surtout que bon, son équipe fait un super début de saison, il y a pourquoi dire des telles choses, donc c'est dommage. Même si c'est un grand monsieur du foot français.
C'est un gros con surtout.
Il fait de belles choses.
Oui. Non, mais franchement, honnêtement, c'est surtout un gros con sans éducation. Moi, je sais pas, moi je vois que ça fait marrer un petit peu tout le monde, mais moi, voir un président qui parle comme ça, c'est.
Faut pas oublier quand même.
Il est pas mieux en plus. Hein. La fameuse on va les enculer ces PD de Nîmois, c'est chaud quand même.
Oui, c'est vrai que c'est un peu lourd à force.
Bah, lourd, c'est le cas de dire. Hein.
Oui, ce que soir, je connais pas la raison de pourquoi Nicolas traite Pedretti de ce qu'on vient de dire, mais c'est assez fort, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le match, mais il a vraiment pété les plombs, quoi. Parce que...
oui. En plus, c'est sûrement sur des petits faits de jeu sans importance, donc c'est d'autant plus dommage.
Ouais, parce que là, oui, c'est vraiment aller loin, quoi. En tout cas, dans le mot qu'il utilise n'est pas.
Bon, il a pas tort, non, je connais, mais bon. On va
sanctionner.
Ouais. Bah, j'espère qu'il va se faire sanctionner, parce que bon, quand tu vois Pamboiré et Gourcuff qui se font réprimer pour des petites trucs sans importance, et quand tu vois lui qui enchaîne les vulgarités, les injures, c'est pas parce qu'il est président et non pas entraîneur qu'il mérite pas non plus des sanctions. Voilà, donc, on verra ça. On verra.
En espérant qu'il soit sanctionné à la juste mesure de ses propos. Avant de passer au championnat étranger avec Abim, notamment à la Liga, on va peut-être dire un petit mot sur les rencontres de demain en Ligue 1. À 17h, Nice-Le Mans et Rennes-Valenciennes. Et puis à 21h, un choc.
Choc.
Qui j'en fais rêver plus d'un. Sochaux-Paris-Saint-Germain. Voilà.
Oh, à noter que y a suspense.
À noter que pourquoi il y a Sochaux-Paris-Saint-Germain dimanche à 21h, c'est parce que tous les chocs, les matchs qu'on pouvait considérer comme des matchs chocs étaient joués par des équipes jouant la Ligue des Champions. Voilà. Voilà, comme dit notre cher président de la Ligue.
Que l'influx du Big Four ne joue rien.
Voilà, un flow.
Voilà. Donc voilà, à part si vous avez un match, des petits propos à dire ou des petits pronostics demain sur les matchs du dimanche, et ben on va pouvoir passer à la page européenne.
C'est parti.
Vous avez quelque chose à rajouter? D'accord, et ben on a justement Abib qui va pouvoir nous parler de la Liga avec la victoire du Real, le match nul du Barça et la défaite pour l'instant de Madrid. Et puis peut-être après on aura droit à une page Jupiler League avec moi et Chris, on sait pas. Donc voilà, la Liga, et puis pour ceux qui aiment la Jupiler, peut-être la Jupiler après. Voilà,
Abib, je te laisse la parole. À part si tu parles de la PR, sinon non.
Oui, c'est vrai.
Donc on va parler évidemment des matchs de la Ligue des Champions, enfin des clubs engagés en Ligue des Champions, avec aussi le quatrième dont tu n'as pas parlé, c'est le Sevilla.
Excuse-moi, j'ai oublié.
Ouais, pas de problème. Donc on va commencer rapidement avec justement le match du Sevilla contre, alors qu'il se déplaçait à Jerez, donc c'est une sorte de derby d'Andalousie. Les deux villes sont à peu près, une heure et demie de route, donc c'est vraiment tout proche, et c'est typiquement le genre de match que le Sevilla ne rate jamais. C'est le Sevilla, ce qui est vraiment très fort dans l'aspect sportif, c'est qu'il se loupe très 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 rarement, et contre les très petites équipes comme ça, il se loupe pas. Donc victoire 2-0 grâce à des buts très surprenants évidemment de Negredo, Luis Fabiano, notez l'ironie. C'est encore une sorte de crotte de nez que j'envoie au Real Madrid, parce que surtout les buts que met Negredo, là il va falloir commencer à se poser de vraies questions quand on voit le niveau de Negredo, même si sur les derniers matchs il a quand même eu 2-3 matchs assez moyens. Là il marque un but magnifique et on se posera, enfin je vais plutôt poser à voix haute la question que se posent beaucoup de gens à Madrid: pourquoi avoir pris Benzema 35 millions et avoir vendu Negredo 17 jusqu'à preuve du contraire? Donc il n'y a pas énormément d'éléments qui peuvent laisser penser que Benzema est plus fort que Negredo. C'est même d'ailleurs, si on considère évidemment le fameux but qu'il a marqué contre Manchester, qui est l'une des raisons principales de son énorme surcotage et du craquage médiatique qu'il y a autour de Benzema. On a un mec, Negredo, qui n'a pas fait une mais deux bonnes saisons en Liga. Et là, dès ses premiers matchs en Ligue des Champions, il montre un très bon niveau. Et là, il continue sur sa lancée aussi en championnat. Et bon, c'est dommage parce qu'en plus, c'est pas vraiment un profil qu'a actuellement le Real Madrid. Mais bon, c'est pas encore une fois surprenant. Et puis, on en reviendra un peu plus. Donc, sinon, Luis Fabiano, c'est le courant alternatif. Et là, sur cette saison, il me semble quand même assez bon. Et puis, par rapport à l'interrogation qu'on avait en début de saison, à savoir qui des trois grands attaquants allait gicler du côté du Sevilla, eh bien, on est en train de comprendre de plus en plus que c'est tout simplement Canute, hein, qui ne jouera pas. Donc, la paire d'attaque va être formée par Negredo, Fabiano. Et l'autre petit enseignement, mais un petit peu plus pour les puristes à la limite, parce que il faut savoir que le Sevilla, quand même, là, c'est pareil, trois ailiers extraordinaires, que sont Navas, Perotti et Capel. Le plus âgé, ça doit être Navas, il doit avoir 22-23 ans. Donc voilà, autant vous dire qu'ils ont un très très gros niveau, et vu ce qu'on voit en début de saison, on peut penser qu'en fait ce serait plutôt Navas qui perdrait sa place au profit de Perotti, et puis Capel qui resterait côté gauche. Donc maintenant il faut voir ce que va donner le Séville lors des prochains matchs, mais c'est franchement une équipe qui est en train de faire très mal, parce que en plus avec les résultats d'aujourd'hui, ils sont qu'à 3 points ils reviennent à 4 points de la tête du championnat, donc Barcelone, et c'est franchement une équipe à surveiller, même si je pense
pardon. Très bon assist défensif en plus.
Ah, mais défensivement, on n'en parle même pas, parce que c'est pas des joueurs qui sont très 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 connus en France. Bon, Skilacci évidemment, tout le monde le connaît, Escudé aussi, mais après, c'est plus des joueurs entre guillemets pas médiatiques et médiatisés, même si les connaisseurs les connaissent. Donc, Fernando Navarro qui a été formé au Barça et qui a explosé à Mallorca, Abdoulaye Konko qui est connu par les observateurs de la Serie A parce qu'il a été excellent avec Cagliari, Dragutinovic qu'on présente plus. Bon, c'est évidemment l'international serbe qui en plus a l'avantage d'être très polyvalent parce qu'il peut jouer soit côté gauche soit dans l'axe, et puis le doublé pivoté, donc les deux joueurs devant tout le monde connaît. Puis Renato, c'est je pense, quand il en forme, il rentre facilement dans les 10 meilleurs joueurs de la Liga, parce que je pense que Romieto peut en parler aussi, le nombre de fois que ce joueur-là fait d'énormes matchs contre le Barça et le Real. Mais son tout petit problème, c'est qu'il est un petit peu inconstant, mais en valeur pure, c'est vraiment super joueur.
Souvent décisif.
Ouais, il est très souvent décisif. Et puis là, il joue un peu plus bas, même si moi je trouve qu'il est vraiment très bon quand il joue limite en deuxième pointe. Bon, là, il joue pas à la récupération, mais plutôt à la création côté de Zokora. Et là aussi, c'est mine de rien une petite paire très, très, très efficace dont on parle pas trop.
Et donc. Oui, et puis Séville qui va.
Oui, vas-y.
Ouais, Séville qui peut poursuivre sa bonne semaine en se qualifiant à domicile pour les huitièmes de finale de Ligue Champions face à une pauvre équipe de Stuttgart qui est à l'agonie et qui ne mérite que le couteau final, l'épée de Damoclès, pour mettre fin à son souffrance.
Pour faire plaisir à Roméo.
Il me semble que ça fait partie enfin, elle fait par... Sevilla fait partie des 3-4 clubs qui ont gagné tous leurs matchs en Ligue des Champions. Donc,
des 3 clubs, je te confirme ça.
Des 3 clubs, c'est ça. Donc c'était avec Manchester et Chelsea, il me semble.
Ouais.
J'ai un petit doute pour Chelsea, mais non, je pense, qu'ils ont fait.
Lyon, je pense.
Ah non, des 4 clubs, excuse-moi, des 4 clubs, c'est Séville, ouais. Lyon, Manchester United et Chelsea, excuse-moi, oui, j'en ai loupé un.
Voilà, quoi, c'est franchement une belle équipe. Donc, ouais. On va enchaîner avec les autres matchs. Donc, on va parler de Real Madrid, Getafe. Et là, oh surprise, oh énorme surprise, Raúl est remplaçant et les buts arrivent. Voilà. C'est. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc, on a une attaque un petit peu bâtarde, en fait, avec Marcelo côté gauche, Higuaín à droite et Benzema, Benzema dans l'axe. Même si Higuaín et Benzema ont quand même ils ont assez changé leur position. Et puis, l'autre constat, c'est que Higuaín, de la même façon que je posais certaines questions par rapport à la pseudo-supériorité de Benzema sur Negredo, là aussi, je me pose la question, en quoi Benzema est meilleur que Higuaín? On a même un élément de réponse, parce qu'au final, Benzema, c'est quand même un mec qui a joué quand même énormément. Et le petit pipi à Higuaín, et ben, il est toujours là pour sauver l'équipe. Et bon, là, c'est pareil. Hein. Après, évidemment, là, on parle... C'est du très relatif, parce qu'on compare les deux joueurs, mais... Au-delà de ça, le plus important, c'est quand même de voir que quand Raúl n'est pas là, il y a largement plus de mobilité. Et j'espère que Pellegrini va enfin comprendre que c'est pas une coïncidence, hein, tout simplement. Après, voilà, le gros point noir de ce mercato, c'est Kaká. Il est très, 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 très loin de son niveau, de son meilleur niveau, entre guillemets. Le problème, c'est que ça doit faire 2-3 ans qui n'a pas fait de vraies belles saisons, parce qu'en 2007, même s'il est éblouissant en Ligue des Champions, c'était pas terrible. Et bon, voilà, c'est pour moi, c'est le gros point noir, parce qu'au final, 63 millions, c'est largement trop. Alors après, on peut là aussi faire la comparaison plutôt avec Cristiano Ronaldo. Le problème, c'est que Cristiano Ronaldo, il plaît peut-être pas à certains, aux nouveaux puristes, en fait, qui nous expliquent que si on ne crée pas de jeu, on n'est pas un bon joueur. Le problème, c'est que Ronaldo, il marque à tous les matchs quasiment. Et bon, bah, son absence, finalement, ça a été vraiment, vraiment ce qui a posé d'énormes problèmes au Real. Donc, là, aujourd'hui, le Real se reprend. Et c'est pas plus mal. À noter aussi l'expulsion d'Albiol pour une faute un petit peu bébête. Et la grosse actu de la semaine, c'était. On parlait de Loulou Nicolas, on va reparler du Loulou Nicolas des joueurs en Espagne, à savoir comment être politiquement correct tout en étant incisif à la fois. Là, je suis très inspiré ce soir, mais donc si on l'a fait Loulou Nicolas style, je dis que c'est la tapette Guti. Si on essaie d'être un peu plus délicat, je vais dire le truculent Guti. Donc Guti qui, non content d'être mauvais sur le terrain, se permet à la mi-temps du tristement célèbre Alcorcor Real Madrid de dire à Pellegrini, a tomar por culo, qui veut dire, je pense que vous avez...
J'encule les tomates.
Tout à fait. Donc je vois que l'humour légendaire de Roméo existe encore. Non mais a tomar por culo, va te faire foutre. Donc c'est... voilà, c'est une touche très très élégante de sa part. Et puis on va parler des deux derniers matchs un peu plus rapidement. Donc Osasuna-Barcelona, c'est un match nul très 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 stupide. Et en fait, je vais tout simplement laisser Ronito en parler.
Ouverture du score de Keita sur une belle action collective, encore une fois la conclusion et un déboulé d'Osasuna à la fin, toute dernière minute. Il me semble que c'est Marquez qui se fait enrhumer. Un centre piqué qui veut la dégager mais qui se chie, qui a un petit contre son camp, donc voilà, un petit un partout et on perd 2 points, c'est dommage. On pouvait mettre le Real à 4 points, à 3 points pardon, donc on va dire que ça maintient le suspense. Mais c'est dommage d'encaisser un but comme ça à la fin du match alors qu'on tenait la victoire. Surtout que c'était pas si évident que ça de battre Osasuna. On n'a pas été super exceptionnel ce soir. Et donc on prend un but con. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups.
Ouais, mais le problème c'est que moi mine de rien, je suis un petit peu sceptique par rapport à ce qui se passe au Barça. On a tout le monde qui enterre Thierry Henry et ça, je trouve ça assez dégueulasse. Mais oui, je vais prendre la défense d'un Français et un Français qui a un énorme melon. Le problème, c'est que ce Français-là qui a un énorme melon, c'est sur les 10 dernières années facilement dans le top 3 des meilleurs attaquants. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de le sous-estimer. L'an passé, toute compétition confondue, c'est alors de tête, c'est dans les 22-23 buts et
ouais, c'est ça. Ouais.
11-12 passes décisives. Donc, avec tout le respect que j'ai pour Ibrahimovic, il est encore loin d'être aussi bon, tout du moins sur les stats. Et puis, il ne faut pas oublier que Henry, il a aussi l'avantage de marquer en Ligue des Champions. Hein, parce qu'Ibrahimovic, j'attends de voir ce qu'il va faire arriver en huitième de finale.
On l'attend aussi.
Par contre, l'absence de Yaya Touré, elle se voit énormément parce que Busquets, moi, je le redirai... autant de fois qu'il le faudra, c'est un mec extrêmement surcoté. Si Busquets joue à Malaga, il ne rêve même pas d'être convoqué en équipe d'Espagne. Là, il est limite en train de devenir un des, pas des cadres, mais un des appelés réguliers. Et puis, l'autre grosse absence du côté du Barça, c'est Alves. Ça s'est vu parce que Puyol, il a une façon de centrer, c'est fort à ras de terre. Alors bon, évidemment, quand on a quand on passe de Puyol latéral droit à Alves, c'est pas terrible. Et puis surtout que Chigrinski, le pote de Cenote, donc le Chidre, est loin d'être convaincant. Et puis son association avec Piqué, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc voilà. Et puis puis côté de Osasuna, je vais parler du petit chouchou de Cenote toujours, donc Azpilicueta. Ils ont en plus Osasuna, c'est quand même mine de rien, c'est une belle petite équipe parce que ils ont Ricardo qui, comme aujourd'hui, peut être très 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 fort quand il est inspiré. Ricardo, d'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est lui qui joue à Manchester, enfin qui reste juste une saison. Mais j'ai un tout petit doute là-dessus, vu qu'il y a 30 gardiens en Espagne qui s'appellent Ricardo. Ils ont Azpilicueta et Monreal qui sont deux très 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 bons latéraux espagnols, très jeunes. Monreal est déjà en équipe nationale, Azpilicueta devrait en être dans pas longtemps, et puis Aranda qui a fait un très beau match ce soir. Et bon, évidemment Keita côté du Barça, c'est la très très grande forme, il est peut-être en train de gagner une place au Barça, vu que on essaie de, ce dont je parlais par rapport à Thierry Henry, on est en train de privilégier Iniesta côté gauche ou Pedrito. Et donc le Keita qui prendrait la place de Iniesta, et puis vu ses performances du moment, c'est pas ils veulent pas sa place. Et premier match de Kike Flores, donc on fait un petit bisou à Piero s'il nous écoute. Donc après avoir détruit Benfica, je pense qu'il est bien parti pour détruire aussi l'Atlético Madrid. Et donc premier match, première défaite à San Mamés, donc 1-0, un but de Javi Martinez. Un nom qu'il faut aussi, un joueur qu'il faut suivre de près dans les prochaines années. Mais pour ce match-là, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas trop regardé j'ai juste vu les premières minutes du match. Donc, malheureusement, connaissant Kike Flores, on a sûrement dû voir un Atlético Madrid très, 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 très moche. Donc, voilà, demain, c'est les matchs un petit peu banania. Je pense que ça intéresse pas grand monde. Bon, il n'y a pas, surtout qu'il n'y a vraiment pas de, il y a vraiment pas d'affiche, hein. Et puis, rapidement le classement provisoire. Donc, Barça premier avec 23 points, le Real à 22, Séville à 19, Valencia et le Deport avec un match en moins à 15 points, Mallorca 10e à 14 points. Donc, pour l'instant, à part Villarreal qui est 18e, on a grosso modo toutes les équipes qui devaient
être. Et l'Atlético.
Et l'Atlético, bien sûr. On a grosso modo toutes les équipes qu'on attendait.
Voilà. Bien, merci.
Petite news en deuxième division. Betis Villarreal B qui est suspendu pour grippe A. Et là, c'est pas c'est pas le PSG qui fait ses petites combines. Là, ils avaient 13. Et je dis bien 13 joueurs.
Et Man a compris.
Donc, parmi les, entre guillemets, les petits, entre guillemets, je dis bien vraiment guillemets, les stars, touchés, il y a Sergio Garcia, Pavone, Emana, Damien, Nelson, donc quasiment toutes les, tous les gros joueurs du club. Et à noter aussi l'élégance de Villarreal B qui, 3-4 jours, il y a déjà 3-4 jours, expliquait que il n'aurait aucun problème pour reporter, enfin voilà, pour reporter le match, c'est qui se jouera, il me semble, le 11 ou le 12 novembre, vu que les deux clubs sont déjà éliminés, enfin, que le Betis est déjà éliminé en coupe. Voilà.
Oui, j'avais peut-être quelque chose à. Bonsoir à toutes et à tous. Habib, j'avais peut-être quelque chose à dire par rapport à Thierry Henry. C'était très intéressant ce que tu disais, mais il paraît que les grands clubs anglais seraient sur lui, si j'ai bien suivi.
C'est ça. J'aurais une sorte de troc en fait avec Manchester City.
Voilà, voilà.
Récupérer Robinho.
Non, mais ce serait pas mal. Et en plus des stats que tu disais, je pense qu'en plus c'est un joueur. On ne le souligne pas assez. On est très critique avec lui. C'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer selon moi à gauche, à droite, en pointe, en soutien
d'attaque. À droite, non, mais.
Non, mais c'est parce qu'il pourrait jouer sur le flanc, enfin sur l'aile droite. Avec son pendant à gauche, enfin, je sais pas
si
je
une fois ou deux. Il a franchement joué une fois ou deux depuis qu'il arrive au Barça, c'est horrible à droite.
Ouais, en tout cas, il est très polyvalent et faut être trop sévère avec lui. C'est peut-être un des attaquants les plus polyvalents en dehors du fait que tu disais qu'il avait de très bonnes stats, quoi. Non, mais j'étais d'accord avec ça.
Et puis même au-delà, si tu veux, moi, ce qui m'énerve un petit peu avec Thierry Henry, c'est que on lui fait le procès de ce qu'il a un petit peu dit sa première saison à Barcelone. Mais entre la première année et la deuxième année, c'est je vous donne grosso modo deux phrases qu'on aurait pu retirer de quasiment toutes ces interviews. Première saison, c'est je joue côté gauche, ça me fait chier de défendre. Deuxième saison, c'est je joue côté gauche, je défends, mais c'est toujours un plaisir. Donc voilà, c'est ça qui a changé, c'est sa mentalité.
Ouais, ouais.
On a compris que au Barça, il sera vraiment un joueur en plus. Et puis moi, je pense que ça lui va bien parce qu'au final, c'est un mec qui marque lors des matchs importants. Les mauvaises langues sont là à expliquer que si tu le compares à Messi ou à Iniesta, il a moins de toucher, il a une moins bonne vision de jeu. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est que Thierry Henry, c'est lui qui met à chaque fois, qui redonne ou qui égalise à chaque fois contre le Real quand ils vont leur mettre leur branlée. Au Bernabeu, une minute après chaque but du Real. Donc, voilà, et puis je dis ça, mais il n'y a pas eu que ce genre de match-là, il en a fait énormément. On a vu en finale de Ligue des Champions, c'est celui qui met Ferdinand en position caca, donc plus au sol et à regarder ses godasses. Donc, moi, je suis désolé, mais ce genre de joueur, j'ai quand même un minimum de respect pour lui, on peut les aimer ou pas, c'est comme Raoul, mais évidemment, je le critique, mais. On aime le foot, on est obligé de respecter un gars pareil. Et bon, surtout que Thierry Henry a quand même fait plus de bonnes choses l'an passé. Et puis surtout, moi, ce qui m'ulcère vraiment, c'est de voir que tout ce dont on. Le remplaçant dont on parle énormément, c'est Rovinho, un joueur qui n'a rien prouvé. Mais qui n'a rien prouvé. Ça veut dire que sa meilleure saison au Real Madrid, ça doit être, grosso modo, la pire saison de Thierry Henry en 10 ans, quoi. Donc. Ou à peine plus, donc c'est ça le problème, c'est un joueur de baballe. Et voilà. Puis moi, il va falloir m'expliquer un petit peu en quoi il va aider le jeu du Barça, parce que c'est surtout un mec qui adore toucher le ballon. Donc moi, il faut voir.
Ça me fait peur. Quand j'entends Robinho, ça me fait peur. Surtout pour l'échanger contre Henry, Robinho et la régularité.
Je pense aussi que le Barça va ajouter de l'argent, hein, si jamais il y avait
un match. Quel cata.
Ouais,
c'est l'arnaque.
Comme il est jeune, ils vont sûrement demander de l'argent.
En plus, il a un rôle assez ingrat avec tous les techniciens de Barcelone. On est bien d'accord, hein, Domenech, je ne vais pas le défendre. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas déloger Henry, parce que Henry, quand il l'appelle en équipe de France, il répond présent. Et même quand il ne marque pas, même quand il ne fait pas avancer ses stades, il pèse sur une défense, c'est incroyable. Et en plus, il pèse aussi sur le moral de ses équipes, parce que c'est un leader aussi, il ne faut pas oublier ça. Non.
Oui, oui, mais c'est exactement ça. C'est le problème, c'est que moi, un mec qui ouvre sa gueule, mais qui ensuite est bon, ben, je m'en fous à la limite qu'il ouvre sa gueule. L'excuse de l'ego pour descendre un joueur, ça me gave quand ce joueur-là est bon, c'est comme Ibrahimovic. Le mec, il s'auto, ça fait 5 ans qu'il s'auto-proclame meilleur joueur du monde, mais ça reste un putain de joueur. Donc après, son ego, qu'il ait de l'ego, on s'en fout. Moi, ce qui m'énerve, c'est des mecs comme Benzema. Il a rien foutu. Il a jamais enchaîné 2 bonnes saisons en Ligue 1 et il se prend pour le roi du monde. Mais c'est franchement insupportable de voir son manège sur Téléfoot où on a l'impression que c'est Di Stéfano.
Ouais, non, Téléfoot, c'est Téléfoot aussi, quoi.
C'est Téléfoot, ok. Thierry Henry, quand il passe sur Téléfoot, avec toute la carrière qu'il a, il a quand même
beaucoup plus d'humilité.
Respect, là, mais vraiment, on a l'impression que tout le Real Madrid est en train de mouiller la culotte pour Benzema. Ils sont juste en train de.
Je suis d'accord avec toi, ouais. Bah pour Benzema, je crois qu'on est tous d'accord. Et je vais pas dire qu'il est surcoté, mais laissons-lui le temps d'abord de s'imposer au Real Madrid.
Évidemment, ça, il a un énorme potentiel. On est clair.
Pour prendre une de tes expressions, il ouvre sa gueule avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit.
C'est juste ça, moi, qui m'énerve, parce que ce qu'il a fait en Ligue 1, c'est intéressant. On est d'accord. Ce qu'il fait contre Manchester, c'est intéressant. C'est juste avec un peu plus d'humilité, bah, ce serait bien. Quand on voit d'un côté lui qui est en train de se la péter sur toutes les chaînes de télé possibles. Mais vraiment toutes les chaînes de télé possibles imaginables, dès qu'il voit une caméra, je sais pas si on regarde des matchs du mal, dès qu'il voit une caméra, il fait tout de suite un petit geste à la
Sefiu. Ah, une application peut-être.
Voilà, la Sefiu ou à la Booba, j'ai l'impression d'être dans le système américain du sport, là, avec tous les mecs qui sont là à se la péter comme pas possible, alors que le mec, il est troisième, au Broncos de Denver, quoi. Faut avoir une connerie. Alors que voilà, d'un autre côté, on a un mec comme Higuain, il dit rien, il joue, il marque, et il est jamais en train de chialer. On l'a vu, il a payé pendant 3 ans le fait de ne pas être allé jouer les compétitions de jeunes avec l'Argentine. Là, il rentre avec Maradona, il a limite supplié pendant 3 ans de le prendre. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est les mecs qui ont un minimum, en plus d'envie de progresser, parce que moi ce qui m'énerve, c'est Benzema, chaque match, il nous explique que ouais, j'ai pas été bon, mais bon, la prochaine fois, je vais éclater. Mais non, mais il n'y a jamais rien. Il éclate jamais rien. Le seul match où il a été bon, c'est contre Tenerife. Mais Tenerife, ça se maintient pas en première division en Ligue 1, quoi.
Contre les gros clubs, dans son jeu, ça plafonne, quoi. Ça, c'est clair et net. Ça.
Enfin, en tout cas, c'est contre les gros, c'est ça le problème.
Mais maintenant, ouais, apparemment, c'est même pas que contre les gros, quoi. Mais en début de saison, il avait l'air d'être correct, on va dire, dans.
Mais non, c'est même pas vrai. Le truc, c'est qu'il a été bon, tu sais, dans les matchs de pré-saison où il marque 5-6 buts, il finit meilleur buteur ex aequo avec Raoul et Cristiano Ronaldo ou il est juste devant d'un but. Mais voilà, le mec, il a marqué contre des clubs irlandais, quoi. Il s'est pris pour le roi du. Il marque contre Toronto, il marque contre DC United. Putain, DC United, à part des Rosario, je demanderais à n'importe qui de me citer un joueur, il n'y a pas un nom qui arrive, quoi. Voilà, c'est ça. Les mecs, ils marquaient le but du 5-1 et ils étaient là à faire les foufous. Donc voilà, ouais. C'est ça le. Donc voilà, c'est Benzema, il doit juste fermer un petit peu plus sa gueule, quoi.
Voilà.
Aurélien. Bien, voilà pour ce débat. Vous aurez quelque chose à rajouter, non? Eh ben, Chris est intervenu de façon brillante dans le débat. Bonsoir,
oh,
Chris.
Oh.
Merci, tout le monde t'a entendu. Alors, vous avez promis une page exotique avec la Jupiler League. Oh, eh ben, Chris, je crois que tu t'es préparé à parler de Jupiler League.
Oh, énormément.
Bonne nuit.
Je pense que les auditeurs sont tout ouïes pour qu'on parle de la Jupiler League, mais je ne vais pas pousser le vice jusqu'au bout, je ne vais parler que des gros clubs, c'est-à-dire d'Anderlecht.
Personne, en fait, donc les gros clubs de Jupiler League, tu veux dire les clubs italiens?
Non, les gros clubs nationaux de Belgique.
On a fini, c'est bon.
La Belgique, c'est le pays exotique au nord de la France où il fait très souvent chaud, surtout en ce moment.
Où il y a des frites?
Non, pas beaucoup, ça c'est les... Ouais, en hiver, enfin bon, ça reviendra, c'est la période, hein. Ça vient, ça va, tu sais. Donc on va parler de la 13e journée du championnat et je vais vous parler des principaux matchs, c'est-à-dire les 3 matchs qui concernaient les 3 premières équipes du championnat. Et honneur au premier, tout simplement, au club de Bruges qui poursuit son sans-faute. Les Brugeois sont à 12, ils ont fait un très brillant 12-12. Ils sont donc pour
le moment... Un peu comme Grenoble.
Pardon ?
Un peu comme Grenoble.
Oh, un petit peu mieux que mathématiquement mieux que Grenoble, pardon. Ils sont premiers pour le moment, ils ont 30 points et ils ont 2 points d'avance sur Anderlecht, mais c'était encore une victoire très poussive ce soir. Pour ne rien vous cacher, ils ont battu 1-0 leur adversaire du soir sur une faute, un but sur une faute sur le gardien assez manifeste, assez évident. Il faut vous dire que Bruges est très souvent contesté depuis quelques années parce que les années précédentes, ils avaient beaucoup moins de points qu'Anderlecht et le Standard, mais très souvent ils gagnaient des matchs un peu à l'arrache. il y a une, même une expression, une nouvelle expression belge qui dit à la brugeoise, c'est-à-dire un match où il ne mérite pas spécialement de gagner et il gagne sur un penalty ou une décision un peu. Certaines mauvaises langues diront que c'est peut-être l'Olympique lyonnais belge, si vous voulez, pour faire une petite comparaison un peu osée. Mais je ne vais pas m'aventurer dans ce débat-là, parce qu'il y a des supporters lyonnais peut-être ce soir. Encore une victoire poussive malgré tout, mais les Brugeois, comme je l'ai dit, qui poursuivent donc avec un joli 12 sur 12. Et ce qui fait leur force cette saison, contrairement à la saison passée, où ils étaient entre 20 et 30 points derrière Anderlecht et le Standard, qui furent premiers, La différence, c'est qu'il y a un collectif qui est retrouvé. Ils ont un nouvel entraîneur, un néerlandais, Adrie Koster, qui est peut-être bien connu par certains amateurs du Ballon. Ils ont aussi une stabilité dans l'effectif. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait de transfert. Contrairement à leur habitude, ils achetaient entre 10 et 12 joueurs. C'est énorme et ça perturbait vraiment l'équipe. Et il y a aussi un troisième point qui est important, c'est que historiquement, Bruges a toujours été une équipe physique. Et par comparaison, on disait toujours qu'Anderlecht était une équipe technique. Eh bien, l'effectif actuel est beaucoup plus complet, puisqu'il y a des joueurs physiques, il y a des joueurs techniques, etc. Donc pour le moment, Bruges cantonne à la première place du classement. Deux points d'avance donc sur Anderlecht. Anderlecht qui a battu, tiens, le chiffre 2, j'en parle, qui a battu. Je parle, oui, alors, petite intervention d'Habib qui dit « Anderlecht technique, je parle historiquement ». C'est autant, évidemment, où Anderlecht gagnait la Coupe d'Europe. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, un bon mot à placer, Habib?
Non, parce que généralement, le meilleur joueur des dernières années d'Anderlecht, c'est les 14e ou 15e couteaux argentins, tu vois, qui ont galéré au Mexique.
Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais il y a eu la belle époque, hein, il n'y a pas si longtemps, avec les Kohler, les Radzinski.
À part Nicolas Pareja.
Très bon, et Dragutinovic est le Standard.
Je parle d'Anderlecht, mais à part Nicolas
Pareja. Ouais, non, mais bien entendu. Mais bien sûr, mais quand je dis historiquement technique, c'est au moment où Anderlecht avait gagné ses 5 Coupes d'Europe. C'est une époque que je n'ai pas trop connue, malheureusement. Il faut bien le souligner parce que depuis que je connais Anderlecht, c'est pas vraiment les Coupes d'Europe qu'ils gagnent, hein, c'est plutôt les grosses casquettes. Donc Anderlecht, c'est joli aussi. Oh, ça s'applaudit, hein. Donc 2 points de retard sur Bruges et une victoire 2-0 ce soir. Une victoire contre l'autre Sporting, le Sporting de Lokeren, avec un énorme Silvio Proto dans les buts. Il était l'homme du match, mais ça veut tout dire, hein, parce qu'il y avait pas trop, il n'y a pas eu trop de conviction dans le jeu. Ils ont été privés de leur chef d'orchestre, Marc Boussoufa, le néerlando-marocain. Et encore un but, il faut le souligner aussi, un but et une prestation 5 étoiles du prodige Romelu Lukaku. Retenez bien ce nom-là, il a 16 ans et on parle déjà de la Lukaku dépendance. Anderlecht ne peut plus se priver de lui, il est indispensable au club. Romelu Lukaku, c'est un joueur de 16 ans, je peux vous dire qu'il est très imposant, il est suivi par les grands clubs européens.
Enfin, est-ce que c'est un vrai prodige de 16 ans ou c'est un type de prodige de 16 ans comme Vandenborg quand il débarque à 16 ans?
Ah non,
Vandenborg titulaire côté droit et tout le monde nous expliquait que c'était un génie. Vandenborg se fait un petit peu niquer parce qu'il avait des super notes sur FM.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Vandenborg, je sais pas si tu te souviens, sur FM, des super notes qu'il avait avec compagnie. Sauf que Vandenborg, j'ai toujours dit, et je pense que Roméo, je l'avais dit à Roméo, je ne sais plus à qui, j'ai toujours dit que c'était le joueur, c'est à toi, Roméo, que j'avais dit ça.
Oui.
Vandenborg, c'est le joueur le plus surcoté de l'histoire d'Anderlecht de ces dernières années, quoi. C'est une farce, ce type, hein, non. Non, c'est pas du tout de, Aurélien, tu connais Lukaku, peut-être?
Oui, tout à fait, ouais. C'est un grand espoir belge qui a commencé face au Standard l'an dernier lors de la finale pour le championnat et puis il promet, hein, franchement, pour l'avoir déjà vu jouer.
Ah ouais,
c'est un futur grand. Hein.
Ah ouais, il est très important physiquement, hein. Il est technique, balle au pied, c'est vraiment ça. Bah, évidemment, il mesure 1m95.
Oui, j'imagine, non?
1m95 et 90 kilos.
Il a 16 ans, c'est ça?
Ouais, 16 ans. Et
merci.
Et une vitesse absolument exceptionnelle, et il a évidemment un très bon jeu de tête, mais bizarrement, Aurélien, t'es peut-être d'accord avec moi, son jeu de tête, c'est peut-être pas son point fort, justement. Il est plus fort dans le jeu que dans le jeu.
Il a 16 ans ou environ
16 ? Oui, c'est d'accord.
Non, il a 16 ans.
Non, il a 16 ans. Anderlecht a attendu l'an dernier qu'il ait 16 ans pour le faire jouer, là, il a tout juste 16 ans depuis 5 mois, ouais.
Les grands clubs. Vas-y, excuse-moi.
Et Habib, il peut jouer pour la Belgique, Lukaku.
Non, je peux jouer. Je suis sur la page Wikipédia. Non, mais parce que le nom me disait quelque chose, mais je voulais bien sur
et je vais exactement te dire pourquoi le nom te dit quelque chose. Pour la petite histoire, Romelu Lukaku est le fils d'un grand joueur qui s'appelait Lukaku et qui a joué Roger Lukaku, je crois.
Ouais, c'est ça. Je me disais que j'ai entendu le nom quelque part, ouais.
Qui est un grand joueur qui a joué à l'époque où Anderlecht était vraiment presque sommet européen, en tout cas qui était vraiment très bon. Et pour la petite anecdote, Lukaku, son fils, était très suivi dans les années de jeune à Anderlecht, et c'est son père, donc un ancien de la maison, qui lui a dit non, tu restes Anderlecht. Il a cru au projet du président Van den Stock, donc c'est vraiment une superbe chose. Mais malgré ça, les dirigeants anderlechtois disent qu'ils espèrent le garder que 2 ans, donc jusqu'à la fin de la saison prochaine, alors qu'il éclate seulement maintenant, il en est à 5-6 matchs. Donc c'est quand même pessimiste, 2 saisons seulement dans l'équipe A, c'est assez pessimiste. Voilà donc pour la page consacrée à Anderlecht, si quelqu'un a envie d'intervenir, il peut toujours m'interrompre à tout moment, bien entendu.
Voilà, bah, juste une petite remarque.
Aurélien.
Ah oui, pardon, vas-y.
Oui, je voulais juste dire, pour une fois qu'Anderlecht arrive à garder une pépite, parce que depuis Vertonghen, oui, je veux dire, ils en ont perdu, quoi. Donc pour une fois qu'ils en gardent une et qu'elle brille avec Anderlecht, bon...
Beaucoup trop. Mais la politique des jeunes a changé à Anderlecht, hein. C'est ça aussi qu'on peut, vraiment l'applaudir. Je sais pas si tu vois.
Et heureusement.
Avec Kouyaté, avec Sarré.
Sarré, il promet.
Ouais, c'est du très bon. Ouais. Et Anderlecht, qui vendait tous ces jeunes avant, tu parles de Vertonghen, je les ai plus tous en tête, mais il y a quand même eu des super bons joueurs, Lovre qui perce aux Pays-Bas, mais c'est le moins connu. Là, je me souviens plus, mais ils ont quand même vendu un paquet de bons joueurs. Mais ça a l'air de changer, tant mieux. On va pas se plaindre pour Anderlecht, mais pour le football belge aussi, qui a vécu des sales mois ces derniers temps au niveau résultats sportifs. Habib, tu avais quelque chose à ajouter?
Ouais, en fait, il y a 2 choses en fait. Déjà, j'espère que pour vous, ce sera différemment que l'arnaque des Ayou qu'on a nous à Marseille. On nous explique que voilà, comme c'est les fils d'Abedi Pelé, ça va être la folie. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait un petit frère qui est aussi en derrière. Jordan, ouais, c'est ça. Et puis il y a quelque chose que je viens de voir qui est franchement impressionnant, c'est de voir que il a joué avec des gars de 4 ans plus. Il a mis 26 buts en 17 matchs. Alors, les mauvaises langues vont dire que c'est que le championnat belge, que c'est des divisions inférieures. Mais quand tu m'as contre des 4 plus que toi, c'est que t'es surclassé.
Ah non, mais énorme. Il est énorme.
Ouais, non, c'est monstrueux.
Il est énorme dans tous les champs.
Je vous donne ses stats. Ses stats en jeune. Alors, avec Bruxelles, avant, il met 68 buts, 68 matchs. Et avec Anderlecht, c'est 121 buts, 88 matchs.
C'est des statistiques assez. Incroyables. Il est belge, hein. Je lis que congolais, il va jouer pour l'équipe nationale belge puisqu'il a la nationalité. Je crois que c'est son père qui était congolais, mais lui est totalement belge. Il a dit qu'il allait jouer pour la Belgique. Le nouvel entraîneur Dick Advocaat, lui, ne veut pas encore brûler ses ailes et ne veut pas encore le faire jouer pour l'équipe nationale. Il y a un petit écho. Je pense que ça va être rapidement résolu. C'est déjà résolu. Le champion en titre, le Standard, parlons-en. Ça ne va pas trop pour le Standard. Ils sont à 8 points de Bruges déjà. Attention, ça commence à faire beaucoup. C'est très très inquiétant. 8 points, ça commence déjà à ce stade-ci, 13 journées seulement. Ça commence à faire beaucoup. Ils sont je viens de le dire, à 8 points du leader brugeois après avoir concédé un nouveau match nul hier 0-0 à Moucron. Un match malheureusement très émouvant, car ça pourrait être le dernier match de l'histoire de Moucron en Division 1. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais le club de Moucron risque de faire faillite. C'est vrai qu'à titre personnel, les Wallons, on est un peu tristes parce qu'il n'y avait plus que 3 clubs Wallons sur les 16.
On est tous très tristes.
Hein. Et non, nous les Wallons, nous sommes assez tristes de ça parce qu'il n'y a, que 3 clubs Wallons, un club bruxellois et 12 clubs flamands sur les 16. Donc là, il n'y aura plus que 2 la saison prochaine. Et 13 clubs flamands, ça risque quand même. 2 clubs Wallons et 13 clubs flamands, c'est quand même un énorme déséquilibre. C'est très inquiétant. Donc je l'ai dit, un match très émouvant parce que donc les supporters moucronois, même vous pouvez rigoler, hein, mais comme tout supporter d'un club qui est en train de disparaître, on sait ce que c'est la passion pour un club de football et c'est triste de voir. Enfin, je sais pas, imaginons un peu que notre club préféré disparaisse. C'est vrai que ça doit être assez douloureux. Moi, je ne le souhaite à personne, évidemment. Et en plus, Moucron, il était considéré comme le club le plus sympathique de la Division 1 avec les supporters les plus fair-play. Ils avaient gagné cette image-là au fil des ans. Aurélien, un commentaire par rapport à Moucron, peut-être.
Oui, tout à fait. En fait, je fréquente beaucoup d'habitants sur l'université qui viennent du secteur, et je veux dire, pour eux, c'est vraiment une tragédie, en tout cas pour ceux qui suivent le foot, parce que c'est un monde qui s'écroule. Ils ont connu le stade, ça a été un club pour eux toujours, ils l'ont suivi, où ils y ont joué, etc. C'est vraiment une tragédie, quoi. Enfin, pour la Wallonie, c'est une tragédie, quoi.
C'est terrible.
Ouais. C'est vraiment un club. Je connais pas tous les Wallons, puisque essentiellement les Wallons qui viennent du Hainaut ou
le Mons.
Voilà. et de Mons, voilà. Et mais je veux dire, c'est vraiment une tragédie pour eux. Tu sens que c'est une fin dans le pays. Après, il faut peut-être espérer que Tournai, je ne sais pas ce qu'ils font actuellement, monte pour remédier à cela, mais c'est vraiment une tragédie. En plus, Mouscron est quand même un club qui a sorti des très bons joueurs, comme les frères Mpenza, Van der
Hagen, Van der Gueux, Pironi, mais Habib. Voilà.
Non, mais les très bons joueurs, Mpenza aussi, ça m'en fait mal.
Actuellement, et Dembaba, qui a été formé à Mouscron.
Et qui joue moi, le truc de les frères Mpenza, très très bons joueurs, ça m'a fait mal aussi.
Ah non, mais Dembaba, c'est un bon joueur.
Ouais.
Il était formé plusieurs années à Mouscron.
Habib, je ne veux pas rentrer dans un débat, mais...
Non, mais un attaque...
Pas un bon joueur, excuse-moi.
Mm-hmm. Vas-y, Aurélien.
Mm-hmm. Oui, Emile Penza, pas un bon joueur. Je ne suis pas d'accord.
Enfin, Emile Penza, c'est... Allez, c'est quoi...
Un talent gâché, quand même, avouons.
Non, c'est... Bah oui, évidemment, ils ont eu beaucoup de blessures. Mais Emile Penza, ça vaut quoi? Un tiers de Stéphane Guivarch?
Non. On y va au niveau du talent. Je suis pas du tout d'accord.
Non. C'est, ça, il a c'est beaucoup plus de statistiques.
C'est un peu cliché, peut-être, Habib, non?
Ouais. Tu l'as connu. Non, mais Habib.
Qu'est-ce qui te fait dire
Habib
ça?
De dire...
Non, mais peut-être qu'il a raison, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Habib?
C'est un mec qui a réussi dans deux championnats seulement. La Belgique.
Et l'Allemagne.
L'Allemagne, c'est le faux championnat.
Oui, à Schalke 04 au moment.
C'est le faux championnat de qualité dans la mesure où on sait tous comment sont les défenses allemandes. Si je vous donne, est-ce que vous êtes capable de me donner rapidement les derniers meilleurs buteurs de la Bundesliga? Tu te retrouves avec des mecs comme Marek Mintal.
Oui, c'est vrai.
C'est voilà, je veux pas être méchant avec la Bundesliga.
Non.
Parce que on peut pas. C'est un peu comme pour Raoul tout à l'heure, quoi. On peut pas dire qu'on aime le foot et taper sur la Bundesliga, mais c'est pas le must, quoi. Moi, c'est pour ça que je dis ça. Donc.
Ouais.
Mais ça reste un bon joueur et qui a marqué l'histoire de la Belgique au début des années
2000. Ah oui, évidemment.
Pas tellement, mais c'est
la fin des années 90, début 2000, c'est clair que voilà, en fait, jusque Schalke, on avait l'impression qu'il pouvait exploser.
Effectivement, après Schalke, il a calé, tu lui fais bien de le dire. Il a eu plein de problèmes privés à Schalke, il s'est pété deux Ferrari là-bas. Il a failli d'ailleurs. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il a eu des problèmes et il en a failli venir aux mains avec l'entraîneur de Schalke. J'oublie son nom malheureusement, mais c'est un entraîneur très connu. La grande époque de Schalke, Habib, peut-être que tu pourras m'aider. L'entraîneur qui était très bon, qui est resté 3-4 ans là-bas. Enfin, peu importe. Ouais, à Schalke. Bah, si vous pouvez trouver ça après, peut-être. Mais peu importe. Mais est-ce que on va essayer de se recentrer sur le débat? Là où Aurélien, tu avais raison, c'est quand tu disais que Mouscron était un vivier de grands joueurs, parce que ils ont tout simplement, et en plus, c'est ça qui est aussi plus terrible encore, c'est qu'ils ont le meilleur centre de formation de Belgique, le Futurosport. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils ont des centaines et des centaines de jeunes pour un tout petit club, mais un centre de formation absolument splendide, et qui va demain fermer ses portes, quoi. Et tout ça, c'est mort.
C'est vrai.
Ça, c'est.
C'est un peu le cœur de la Wallonie, c'était le cœur footballistique de la Wallonie un peu. Je veux dire le vivier en tout cas tous.
Charleroi, oui. En tout cas, il était en tout cas considéré comme le club le plus sympathique de l'élite. On va pas trop s'éterniser là-dessus, mais surtout c'est un retrait qui créerait d'énormes conséquences parce que donc je l'ai dit, le Standard a fait match nul hier 0-0 à Mouscron. Bruges a fait match nul il y a un mois 1-1 à Mouscron. Anderlecht a gagné à Mouscron. Donc l'équation elle est simple. On va supprimer, donc c'est très probable, on va supprimer tous les points de Mouscron. Ça va créer encore un déséquilibre dont le football belge n'a vraiment pas besoin. Anderlecht va encore être lésé comme la saison passée. Parce que je rappelle que la saison passée, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler, et j'en parlerai d'ailleurs, plus longuement dans une prochaine émission, mais il y a eu des tensions très graves. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'était passé entre le Standard et Anderlecht avec l'attentat d'Axel Witsel sur Vasilevski, mais il ne s'était pas passé que ça dans ce match-là. Il y avait eu des fautes qu'on ne peut pas avoir sur un terrain de football. Mais la saison passée, déjà Mouscron, je ne sais pas si Aurélien, tu te souviens, Mouscron aurait dû faire faillite. L'Union Belge lui avait laissé une seconde chance. Et Anderlecht avait perdu deux points précieux par rapport à cette non-faillite de Mouscron. Et maintenant, donc Anderlecht déjà lésé la saison passée, risque encore d'être lésé cette fois-ci. Donc là, ça crée...
Non.
Ah si. Pourquoi non? Ah si, si, ça va. Ça va.
Tous les points que Mouscron avait marqués seraient annulés, que tous les clubs de Jupiler League auraient 3 points de leur confrontation face à Mouscron.
Oui, mais...
Personne ne perdrait de points face à Mouscron, quoi.
Non, pas du tout, puisque les points seraient... mais puisque actuellement... le Standard et Bruges n'avaient pris qu'un point contre Mouscron. Donc si on
ils vont être annulés, transformés en 3 points.
Pas du tout, ils seront d'abord annulés et ensuite il y a un déséquilibre de 2 points en défaveur d'Anderlecht. Ça, je peux te l'assurer. Bah, tout ça, c'est très simple le calcul. Anderlecht avait battu Moucron, le Standard et Bruges avaient fait match nul. À partir de ce moment-là, ils vont perdre 2 points parce qu'on rajoutera 2 points au Standard et à Bruges alors qu'Anderlecht avait déjà les 3.
Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé comme ça.
Un déséquilibre au niveau des points dont le football belge n'a pas besoin, ça va encore faire tourner le football belge pour ridicule. Franchement, on n'avait pas besoin de ça, alors qu'on se fait déjà passer assez pour ridicule comme ça. Ça va, il y aura un club par semaine qui sera bail. Franchement, c'est amateur, quoi. Enfin, c'est même pas imaginable dans un championnat européen. Chaque semaine, un club sera bail, quoi. On voit ça dans les divisions amateurs de basketball. Hein. Juste pour faire la comparaison, ça va modifier les règles du championnat. Alors que cette saison-ci, j'aurai aussi l'occasion d'en parler prochainement, il y a une histoire de play-off. Donc ça va être compliqué, acadabrantesque. Moi-même, j'y comprends presque rien. Enfin, si, j'y comprends, mais c'est déjà très compliqué. Donc tout ça, ça va vraiment nuire non seulement à Moucron, et en plus football wallon, mais en plus à l'ensemble du football belge, qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Quand je vois, moi, comment on fait en Angleterre, c'est-à-dire que quand un club est dans les difficultés financières, on l'interdit de transfert et on encadre mieux ça, moi, je crois que la Belgique a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre de ces grands championnats-là, parce que quand elle n'apprendra pas, et tant que l'Union belge continuera à toujours être dirigée par des incompétents qui ne connaissent rien au football, qui sont là plus comme étant avocats et aristo, mais moi, je pense que le football belge ne va pas aller mieux tant qu'il sera... quand il sera toujours comme ça, ça m'énerve en parler, parce que ça fait des années qu'on parle de ça, et ça fait des années que rien ne bouge, on est toujours dirigé par des incompétents qui ne connaissent rien dans la grande maison de verre à Bruxelles, voilà qui devait être dit. Alors par rapport au Standard, voilà. le Standard, il me dit, là, bah oui, non, mais à un moment donné, voilà quoi. Je me suis un peu
emporté. Non, mais tu as raison.
Bah, j'ai raison, hein, non?
Oui, tu as raison. Bon, en plus, on a droit aux commentaires tout pourris de la télévision belge, donc c'est encore mieux.
Non, mais
c'est vraiment tout est pourri de l'intérieur, mais oui.
Ah non, mais dans la maison de verre, c'est du grand n'importe quoi. Les étrangers, ça
passe. Ouais. La maison close.
Non, mais on appelle ça la maison de verre. C'est une grande maison de verre où les incompétents dirigent l'Union belge. Les anciens footballeurs belges ici n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'ils sont sanctionnés par la fédération. Ça, vous devez le savoir. Autant en France, je sais qu'en France, par exemple, les grands joueurs font partie de l'administration. Ici, ce sont des avocats. Le président de l'Union belge, François de Kersmaker, et c'est un type qui fait 150 kilos, qui a jamais touché un ballon de football, et c'est lui qui dirige le football.
Lolo Nicolas!
Et là, voilà, donc, c'est très très inquiétant. Donc le Standard qui ne décolle pas, on va revenir un peu au sujet sportif. Ils sont à 8 points, ils ont 8 points de retard sur le club de Bruges pour le moment. Ça ne va pas parce qu'ils ont beaucoup de blessés, notamment Steven Defour, le maître à jouer de l'équipe. Il y a Witzel qui a été suspendu 10 matchs à cause de son attentat sur Vasilevski. Le jeu est beaucoup moins alléchant et beaucoup moins posé. On joue beaucoup moins sur les flancs. Le Standard jouait beaucoup avec une infiltration des deuxièmes lignes et des troisièmes lignes sur les flancs. Et ça permutait beaucoup entre les lignes. C'était très intéressant. Ici, on a un niveau dans l'équipe, c'est assez, je vais pas dire pathétique parce que voilà, il faut pas exagérer. Mais c'est pas bon. Donc le Standard doit vite réagir. Le Standard qui, en plus, dans sa poule de Ligue des Champions, a été battu sans spécialement le mériter à l'Olympiakos, donc là la coupe de ils vont peut-être passer l'hiver européen chez eux à la maison, en plus il fait froid en Belgique, donc tant mieux, tant pis pour eux.
Et, non voilà. Mais c'est bien, vous avez qu'à demander au club français, ils aiment bien ça l'hiver à la maison.
Et voilà. Et donc on peut faire un petit point rapide sur le classement. Donc Bruges a 30 points, Anderlecht en a 29. Je l'ai dit, le Standard en a 22, c'est-à-dire 8 de moins que le club brugeois. Le club malinois, qui était un grand club européen, qui est un peu la révélation de l'année, il faut bien le dire, n'est qu'à un petit point des champions en titre. Et parmi donc les deux derniers, il s'agit de Moucron et Roulers. Quant à moi, j'espère parler un petit peu plus de tout ça, parce que, enfin, pas spécialement de tous les clubs, hein, mais de tout ce qui...
Si, parle-nous de Malines et de Roulers. Reste. Parle-nous de... Je veux savoir qui est la star de Malines, déjà.
Non, mais il y avait des...
Mais sérieusement, ce serait bien qu'une fois de temps en temps, tu vois, par exemple, tu me parles de d'un petit club comme ça, tu fais rapide, hein, tu vas pas nous dire, en fait, Van den Brink, il est venu, il a remplacé Van den Brink aussi, c'est des cousins. Non, mais je sais pas, histoire qu'on apprenne, entre guillemets, à connaître un peu la Jupiler League, ça peut être intéressant, hein, et je le dis sans aucune ironie.
Non, mais ouais, pourquoi pas, non, mais je veux dire, moi, quand je parlerai de la Jupiler League, je vais parler d'abord des gros clubs connus, je dirais, c'était le Standard, et après, bon, on va pas trop parler non plus des petits clubs, hein, pourquoi pas. Donc, Bah, pourquoi pas, demain, je parlerai un peu de la guéguerre entre Anderlecht et le Standard. Donc, ce sera demain dans le débafteur européen. Je ne sais plus exactement l'heure, demain soir. Mais surtout.
À 23h.
À 23h demain soir. Surtout, ne manquez pas demain le multisport. Ce sera 19h. On sera très nombreux. Et donc, voilà, c'est ma manière à moi de vous dire bonne soirée. Et merci de m'avoir invité dans votre émission pour parler du championnat belge qui passionne tant les Français.
Mais merci pour tout, Chris. Et tu ne veux pas rester pour le quiz qui aura lieu après la Serie A? Non?
Oh, pourquoi pas, mais j'ose pas trop mouiller, ça dépend des questions.
Eh bah, ben, tu es invité avec plaisir. Et puis, merci pour cette chronique sur la Super League. Et pourquoi Roméo?
Je veux pas être avec Roméo.
Ah, vous inquiétez pas, ce sera pas très culturel.
Voilà. Non, tu me fais pas Roméo. Justement, Ronaldo, putain.
Non. Et ben, si vous avez si cette chronique sur la JPR League vous a plu et que vous avez envie d'entendre d'avoir un débat sur la JPR League, et ben, ne loupez pas demain le débat after européen avec encore une fois Chris.
C'est très intéressant ce que je dirai demain parce que je parlerai de la guerre entre Anderlecht et le Standard et on risque de parler plus ça risque plus d'être un divertissement que des résultats en eux-mêmes hein, parce que je peux vous dire qu'entre ces derniers mois c'était assez énorme. Enfin, je vous dis pas plus, tout ça, c'est demain soir.
Voilà. Et vous avez compris, demain.
C'était une petite bonne annonce.
Voilà. Oui. Voilà. Et puis, il y avait Habib qui voulait revenir sur la défaite de la Juve face au Napoli, puisque je crois qu'il a vu le match, ainsi que Roméo, donc, si vous voulez nous donner vos impressions et dire ce que vous voulez dire.
Sacré scénario.
Connerie, ouais. Comment on peut perdre? Comment on peut perdre 3-2 à domicile? En menant 2-0. Comment on peut faire un truc pareil? Mais c'est quel manque de respect pour les supporters. Moi, ça m'a gavé de regarder ce match. Mais ça m'a vraiment gavé. C'est pas possible. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. Et puis, déjà, on a un élément de réponse par rapport aux sceptiques qui disaient que le Napoli, finalement, en recrutant beaucoup, ça va pas donner grand chose. Ouf. Vu ce qu'ils ont recruté, je pense qu'ils sont assez tranquilles. Hein. C'est évidemment Hamsik, on en parle tout le temps, tout le monde le connaît, Hamsik et Lavezzi, c'est celui dont on parle le plus, mais moi ce qui me plaît vraiment le plus, c'est Gargano et Cigarini, quoi. Donc Gargano, c'est un récupérateur, enfin plus ou moins récupérateur uruguayen international, et Cigarini, c'était celui qui était considéré il y a 2-3 ans comme le nouveau Pirlo. Quand il était à Parme, il a un petit peu, c'est peut-être pas ce qu'il attendait comme projection de carrière parce que à l'époque de Parme, tout le monde le voulait, donc la Juve, le Milan, l'Inter, et comme ça se passe souvent en Serie A, ben, on était limite à faire qui va le prendre. Au final, il finit au Napoli, mais franchement, en plus ils ont un superbe effectif parce que là sur le banc, par exemple, le Napoli avec Quagliarella, ils avaient Jesús Dátolo, le néo international argentin, et franchement c'est une belle petite équipe à voir jouer. Et puis c'est une des rares équipes encore qui joue en 3-5-2, donc c'est assez intéressant pour le souvenir. Voilà.
Roméo, quelque chose à ajouter vu que tu as vu aussi un résumé, il me semble.
J'ai vu petit résumé. Tu parlais de Dátolo et j'aimerais passer un petit coup de gueule par rapport aux commentateurs de Foot Plus qui n'ont pas arrêté d'appeler Dátolo.
Ouais. En même temps, c'est Foot Plus, hein.
Enfin, Foot Plus, Canal Plus, pardon.
Moi, j'ai entendu TF1 dire Mascherano, hein, donc. Et Mascherano, il y a Quinta. Tu peux me dire qu'il y a un topic parti Italie sur ça, hein. Tu essaies au moins de faire un minimum d'efforts et de te renseigner. Voilà, c'est. Bon, en France, on n'aime pas trop faire ça, mais. Après, pour leur défense, c'est ce que je t'expliquais quand tu parlais de la nouvelle mode qu'on a en ce moment avec les Bia, Villa, Bami, où on essayait d'enlever, où on limite, on vient d'apprendre qu'en fait le M ça se prononçait pas. Le problème, c'est que à trop vouloir respecter la prononciation originale entre guillemets, parfois le supporter est perdu. Donc pour beaucoup, quand ils entendent Bami, alors pendant 10 ans ils ont entendu M Bami, et ben ils reconnaissent limite pas le joueur, mais on est d'accord que le Dátolo, là, ils auraient peut-être pu faire un effort, mais bon, moi, par contre, il y a, moi, ce qui me gave vraiment à la Juve, c'est que c'est, moi, Cannavaro, il me rassure pas, et puis Poulsen, pour moi, c'est la grosse déception, parce que pour avoir suivi, pour suivre la Liga, ben, j'avais été très, très, très heureux de son arrivée à la Juve. Parce que, ben, après trois ans, de très, très haute facture au Sevilla, ben, j'attendais vraiment beaucoup plus de lui. Et bon, c'est toujours le même problème. Et surtout qu'en plus, on a actuellement Marquisio qui est blessé, il me semble, Sissoko aussi, donc ça fait énormément de problèmes. Et puis c'est très décevant, surtout parce que en cours de semaine, la Juve met une énorme branlée à la Sampdoria 5-1. Donc voilà, c'est franchement dommage parce que justement, si tu enchaînes coup sur coup, ben victoire sur la Sampdoria et victoire sur le Napoli, ça te relance carrément dans la course au titre. Et puis même au niveau de l'état d'esprit, ben c'est assez énorme, alors qu'aujourd'hui ils ont 4 points de retard. Et puis demain, voilà, ils peuvent être troisième, redépassés par la Sampdoria. Et puis surtout, l'Inter peut leur mettre 7 points, 7 points demain, quoi. C'est très, très, très frustrant.
Je me dénonce, c'était moi, je voulais aller sur le site de la Ligue 1, ben voilà, c'est quoi. Je ne m'y aventurerai plus de sitôt.
Non, mais c'est... En tout cas, attends, tu as mis la Ligue 1, donc déjà tu cherches les problèmes. Mais voilà, donc je suis assez amer. Et puis, bah, Roméo, je pense qu'il voulait dire aussi quelque chose.
Bah non, sinon à part ça, t'as tout dit. Hein,
donc pas, toi, en fait, tu voulais juste dire un coup de gueule. Toi, t'étais là juste voilà. Pour dire, c'est des cons, ils ont dit tatalo.
Voilà. Et bah ouais, Roméo qui a lancé donc sa petite pique du soir contre Canal+, hein. Le message est passé, on espère. Et puis donc on va pouvoir passer. Voilà. Et puis on va donc pouvoir passer au quiz. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais faire le quiz, mais Jérémy. Jérémy, ouais. Es-tu prêt?
Je suis prêt.
Et bah, je vais te laisser les clés. Tu vas nous expliquer ça. Et puis moi, je vais devenir un simple joueur. À toi.
Bah en fait, ça va être un quiz pour changer. Ça va être vraiment sur la culture foot, mais plus sur.
Sur Laurie.
Sur la politique.
Abus de sûr d'avoir gagné, c'est de la triche.
Donc sur des citations, des déclarations de joueurs, entraîneurs, présidents concernant le monde du foot. Donc voilà, ça permettra à Roméo de peut-être gagner. Oui.
Est-ce que c'est international ou assez français?
Il y a de tout.
Merci.
Il y a de tout. Donc d'abord on va former les équipes. Donc vous êtes quatre. Il y a
On fait quatre groupes.
Si c'est français, me pose pas la question, s'il te plaît.
On est quatre, on va faire quatre équipes de un.
Bah, si on fait les franco-belges contre les français.
Ouais, non, il faudrait peut-être mettre un belge et un français dans chaque équipe, ce serait plus équilibré au niveau des questions. Quand je dis ça, ou je dirais. Donc moi, je vais avec Roméo parce que Habib, voilà. Non, c'est parce que si je réponds trop, voilà, je vais pas me faire trop tailler avec Roméo.
Donc, Chris Roméo contre Aurélien Habib.
Ouais, mais désolé, moi j'en veux pas, Chris. Je t'ai sacrifié, Roméo, désolé.
Bon, bah, ça marche. Bon, bah, préparez-vous, soyez concentrés.
Bon, ah, ouais, mais.
Inspiration.
Tu t'es excité là, Jérémy.
Non, parce que en fait, je trouve plus mon papier, donc.
La prochaine fois, juste pour mon ego, c'est on va faire un contre trois.
C'est bon.
Comme ça, si je vous mets une branlée à tous les trois en même temps, là, je. Vous voyez.
Non, mais donc, sur le papier, un contre trois, c'est déséquilibré encore, tu vois, Abby.
J'avoue. Il faut au moins un contre quatre avec Helvetia.
Voilà.
C'est dessus. 10, 11, 12, 13,
14. Alors oui, 16, donc 16, il le fait de façon super. À la Richard Gasquet, comme on dit,
j'ai encore. À la CP.
1 et plus 1 sur tranche 2, ça fait 12.
Avec les doigts, j'espère.
Il fait ouais, les probabilités là.
Attends, là, il a enlevé la chaussette et il est en train de calculer.
Donc c'est parti, on va commencer par Habib Aurélien. Donc première citation, écoutez bien.
Attends, on a le droit de se concerter ou un truc ou premier qui dit un truc.
Si.
Concertez-vous.
On dit concertation avant de se concerter.
Concertation, Habib. Effectivement, concertation.
Les grands esprits se rencontrent.
Qu'est-ce que j'ai dit moi?
Il a dit concertation. C'est beau. Voilà, Rognetto.
Oui, tu peux aller.
Concertation autorisée. Donc c'est parti. Première phrase pour Habib Aurélien. La Ligue 1, je ne la regarde qu'à titre professionnel, contrairement à la Liga ou la Champions League, que je prends plaisir à suivre, mais nous sommes dans un monde artificiel de marketing dans lequel Frédéric Tirier vend son produit.
Ça, si tu dis Ben Arfa.
C'est
pas Ben Arfa parce qu'il a pas d'Icar.
Un petit indice.
Moi, je pense à Pires, à Bip.
Je voulais vous donner un petit indice. Ouais, c'est, comme c'est pas évident, c'est un entraîneur de Ligue 1.
Ah oui, truc.
Moi, je dirais Gourcuff.
Ouais, moi aussi.
Bravo.
Vas-y, Gourcuff.
Ah, c'est bon. T'as vu? Bravo, moi. Eh, moi, je suis un vrai. Je suis pas fan de Lorient. Je suis admirateur de Lorient. Et admiratif aussi, par la même occasion.
Donc, bien joué, bien joué.
T'es pour bientôt le PAX avec Aurélien?
Toi, tu as envie d'un toucher rectal, je pense.
À la soirée.
Ami de la poésie, bonsoir.
Quoi, c'est le terme scientifique? Sinon, j'aurais déjà un doigt dans le cul, hein, si j'avais pas envie de me.
Donc, ouais, donc on va passer
transition.
À Chris Romero. Écoutez bien. Donc, c'est, ça date de la saison dernière. C'était en Ligue 2. Donc, Luis Fernandez est un showman. On ne va plus jouer contre le Stade de Reims, mais plutôt contre le FC Fernandez. C'est un entraîneur de Ligue 2 qui a dit ça.
J'en connais pas beaucoup.
Un entraîneur de Ligue 2
qui a l'habitude de se faire remarquer plus ou moins.
Putain. J'en connais qu'un, donc il va le donner, Valen.
Je saurais pas dire.
Moi non plus.
Tito Pif, c'est une équipe dont Grenoble n'est pas loin de son record qui a même gagné aujourd'hui.
Eh, on dit donc.
Sacré indice.
Si on dit, on a un point, nous.
Ouais, je crois qu'on va faire comme ça, ouais.
Non, donc, non. Alors, je dirais,
vite.
Je saurais pas dire.
Ah.
Bon, du coup,
ça.
Moi, je l'ai, Jean-Marc Furlan.
Exact.
Merci beaucoup. Donc,
il avait entraîné à Strasbourg, lui, non?
Ouais.
Oui. Oui.
Il est toujours, je pense. Je sais pas.
Non. C'est Janin.
Ah, d'accord. Ouais, non. Peu importe. Donc, 2 points pour l'équipe Habib Aurélien. Et nouvelle question pour vous. Donc, là, ça va être vraiment facile. C'est une question assez facile. Donc, Chris Romero aura aussi une question facile après. Raymond Domenech a fait du mal à la France et par-dessus tout au football. Mon Dieu, quelle honte.
Allez.
Pires. Cadeau. C'est pas Pires, ça?
Il a dit Pires.
Ben, non, donnez-moi une réponse officielle.
J'ai posé la question Aurélien, là.
Ouais, j'ai aucune idée, donc je te fais confiance.
Bon, alors Pires.
C'était l'autre exclu, c'était Trezeguet.
Ah, mais on avait aussi donné notre réponse, nous, non?
Ouais. Trop tard.
Ouais, c'est toi.
Voilà. C'est une honte.
Vu qu'ils ont donné une proposition, si je dis
à la prochaine, Pires, voilà, on va dire que la prochaine, on va faire ça. Nous, on n'a pas le droit de répondre à celle
qui arrive la première.
Ouais, mais à notre réponse, vous avez répondu, vous avez le point, quoi.
Mais je te dis, justement, je te dis pour que ça soit équilibré, vu qu'il vient de dire que celle-là est facile. Là, à la facile, si vous la trouvez pas, nous on répond pas. Et ensuite, si vous aurez le droit, et nous non. Tu comprends ce que je veux dire?
Ah, c'est très
important. Pas de problème. Oui.
Voilà.
Donc, je t'ai dit, le cerveau, il tourne trop vite.
Bon, maintenant, la facile pour Chris Romero, elle est vraiment facile. En plus, je vais prendre l'intonation. Êtes-vous prêts?
Avec l'intonation, en plus.
Ouais. Les Jérémiades de Jean-Michel.
Je veux bien les initiales aussi, non?
Oh non, c'est facile. Je l'ai compris.
J'ai rien entendu.
Moi, je l'ai entendu direct.
Non mais vas-y.
Elle le sent l'intonation, c'est pourquoi tu mets pas une plume dans le cul.
Ah, je vais même plus être concentré pour pouvoir bien la faire.
Non, donc, tu veux que je la fasse moi?
Nicolas Cantelouche,
les Jérémiades.
Ah bon, on a déjà compris alors. Bon, c'est pas peu Diouf, je crois.
Je t'ai dit, c'est le seul président qui a la classe. C'est le seul qui te dit, nous leur avons cédé le droit fédératif du joueur. La classe.
Chris a donné la bonne réponse, donc c'est bien Pape Diouf. Moi, je vais dire la phrase entière.
Ah, moi, je pense que ça mérite 2 points. Hein.
Donc, la phrase, en fait, c'était...
Ouais, après, qui trouve une réponse sur le championnat français, moi, je dis bravo.
Et en plus, sans entendre la déclaration.
Et sans l'accent, bien sûr.
C'était bon pour attraper un peu le point qu'avait pris Habib. Donc, la déclaration, c'était « Jérémiah de Jean-Michel Aulas me font sourire au mieux, m'arrache un petit rictus de mépris, je préfère répondre à des gens sérieux plutôt qu'à quelqu'un qui se démène sans boussole ni sens d'orientation. » Donc voilà.
Il a pas chier.
Bon, Oh, il a gagné sa place à Colonte.
Ça fait 2-1. Donc, celle-là, pour Habib ou rien, je sens qu'ils vont la trouver. Donc, c'est parti. Donc, c'est leur spécialité aux dirigeants lyonnais d'être mesquins. Dans les vestiaires, tous les joueurs se plaignent qu'il leur manquait toujours quelque chose sur leur fiche de paie. L'OL manque de classe, ce n'est pas un grand club.
Je crois que c'est...
C'est un joueur.
Je l'ai déjà entendu,
ça. Ah non, je sais pas alors.
C'est Keita ?
Attends.
Enfin, Bip, t'en penses quoi ?
Non. C'est pas le profil. Non.
Je sais.
Moi aussi, je sais que je l'ai entendu, cette phrase-là.
Ouais, moi, pareil, oui.
Roméo, si tu sais, il a répondu ça.
Ah non, c'est Ben Arfa.
Exact.
Ah oui, c'est Ben Arfa, ouais.
Bien joué. Si, parce qu'en fait, deux jours après, il y a le Lyonnais qui arrive et qui dit, ouais, il se plaignait d'avoir, qui manquait quelque chose, bah, il a laissé un chèque de 90 000 euros dans son vestiaire.
Dis-moi, ça a l'air très international, ton cuit, jusqu'à présent.
Pas seulement Ligue 1. Hein?
Ah non, c'est international, il y a la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est vrai.
Donc voilà, 30 pour Habib aux oreilles. Donc pour Chris et Roméo maintenant.
Il y a combien là ?
Il y a 3-1 pour Habib aux oreilles et vous avez l'occasion de revenir à 3-2.
Ah mais on a un coup en moins aussi.
Attends, exact. Vas-y. Donc l'OL n'est pas là pour faire rêver mais pour gagner. La manière n'est pas la priorité. Si on gagne tous les matchs en étant mauvais, cela ne me dérange pas. Et c'est un joueur de Lyon actuel.
Roméo ?
L'OL n'est pas là pour faire rêver.
Donc c'est pas un attaquant qui a dit ça, je pense.
Tu fais pas Wikipédia tout le temps, tu te connais, ton Roméo.
Comment tu veux trouver une déclaration?
Un indice, ça commence par Sony, ça finit par Anderson.
Non, je dirais... Chris, t'as pas d'idée?
Tu dis Chris?
Non, je demande à Chris s'il a pas d'idée.
Je pense pas que ce soit Chris, peut-être le gardien, comment il s'appelle encore le gardien? Loris, peut-être?
Moi, je dirais... Je peux proposer?
Vas-y. T'es mieux quoi,
ouais, donnez-moi une réponse officielle. Non, c'était tout le long.
Ouais. Okay. Un attaquant serait...
Il fallait penser hein, que ça allait être un comme ça. C'est évident que c'était un joueur de Mochito, ça. Hein.
Pas dire ça.
Tu sens bien que c'est pas Lisandro qui va dire ça. Hein. Ça, c'est un moche, hein, un mec qui est un bourrin.
Bon, on reprend le cours normal, c'est-à-dire si une équipe n'arrive pas à répondre ou ne donne pas la mauvaise réponse, l'autre équipe...
Obstruction. Je note que une déclaration. Non, mais ça, voilà, je l'ai.
Elle est légendaire celle-là maintenant.
Ah ouais, non, mais maintenant je peux l'utiliser à toutes les sauces. Je note que quelqu'un dit que putain, Govou avait dit la même chose et il ne fait pas partie de notre équipe.
Qui ça?
C'est Note, mais je ne sais pas qui c'est.
On s'en fout.
C'est Note. Il ment. Que Govou avait dit la même chose et j'ai dit Govou.
Ouh,
Est-ce que c'est la même citation exacte?
Un virgule près.
Excuse-moi, nous sommes précis. Si tout à l'heure j'ai touché rectal et pas droit dans le cul, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis c'est tout.
Donc pour Habib ou rien.
On est bon joueur.
Celle-là est assez difficile, mais vu que c'est une phrase assez mythique, peut-être que vous connaîtrez le nom du gars qui a dit ça. L'Allemagne est une équipe très difficile à jouer. Elle joue toujours avec 11 internationaux.
Ça doit être un truc style Courbis. Mais attends.
Putain, j'ai déjà entendu ça.
Moi aussi.
C'était un ancien joueur.
Est-ce que c'est pas le même qui a dit l'Allemagne, c'est quand tu joues contre l'Allemagne, c'est à 11 contre 11 et à la
fin.
Non,
c'est pas lui qui a dit ça. T'as une idée ou pas, toi?
C'est jamais, c'était peut-être dans la même phrase, hein, on sait jamais.
C'est pas un cerveau qui a dit ça.
Franchement, moi je tenterais un truc genre. Franchement, j'ai aucune idée là. Qu'est-ce qu'on tente? Vas-y, tente un truc en freestyle. On y va.
Choisis un champion européen, puis tu choisis une équipe et puis tu choisis le joueur.
En freestyle, me dis pas M. Pokora.
Il joue plus, hein, c'est un ancien joueur.
Ouais, il joue plus. Mais j'ai déjà entendu, c'est un ancien joueur de l'Allemagne en plus, je crois.
Non, c'est pas un joueur.
Lothar.
Tu sais que je vais tenter Rudy Voller plutôt.
Et moi je dis Lothar Matthäus.
Bah en fait c'est aucun des deux. Donc,
attends, on peut.
C'est trop tard, il a déjà dit Galak. Toi tu vas chercher sur Wikipédia, tu me dis. Attends.
Ouais,
Chris a déjà dit Lothar Matthäus.
Roméo, qu'est-ce
que tu... Ensuite il dit non. Bref, c'était qui?
C'est trop tard, bref. Moi j'aurais
dit quoi, Roméo?
J'aurais dit Marcel Desailly.
Bon, c'est faux en plus, donc pas de regret.
C'était
complètement hors sujet.
C'était qui?
C'était Steve Solomas, un ancien joueur irlandais.
D'accord. Ah ouais. Oh, celui qui la trouve, je lui offre un iPhone et une visite, et une visite guidée dans mon anatomie. Je te dis un petit indice.
Ouais, mais là personne va.
C'est un concierge hongrois. Un indice.
D'accord.
J'ai précisé que c'était difficile.
Oh non, tu m'as pas dit.
Mais là, c'était carrément introuvable.
Bah ouais.
Et oh, on reconnaît les experts germaniques ou pas
hein. Donc.
Irlandais, tu es germanique.
Ouais.
Donc une autre maintenant pour Chris Romeo. Donc assez difficile aussi pour respecter l'équité.
Quel est le jardinier de
question suivante?
Alors, vous êtes prêts?
Oui.
Quel a été le stagiaire qui a mené une bouteille d'eau à Didier Deschamps à la 57e minute de jeu lors de OMTFC?
Quoi? Ok, allez, vas-y.
Non, sérieusement.
Batman Hamdaoui, Jean-Marc Batman.
Alors, Monaco est le pire endroit pour jouer au foot. J'aurais mieux fait de rentrer directement en Italie après avoir quitté le FC Valence.
Oh, c'est facile.
Je l'ai, je peux?
Oui.
Marco Di Vaio.
Exact, bien joué.
Bon, ben, ça fait 30-20.
Ah, celle-là, elle était dure? C'était la dure, celle-là?
Ben, ouais, mais c'est, t'inquiète, ils en auront des chaudes après.
Ah, un mec qui est passé.
30-20, trop bien. Plus petit par match nul.
Comment?
Monaco, Valence. Et un mec qui part d'Italie, qui a joué Monaco-Valence. Tu te rends compte que Roméo l'a trouvé direct? Tu te rends compte que la facilité de ta question.
Il y avait Gérard aussi. Enfin l'autre là.
Stéphane Gérard.
Ouais, mais il a pas joué.
Non, ceux qui venaient de Valence, de Barcelone, qui étaient de Valence.
Oui, mais il a dit qu'il joue en Italie, qu'il aurait dû revenir.
Ah oui, bah non. J'ai rien dit alors.
Alors.
Score s'il vous plaît.
Gérard. 3-2. Donc, je cherche la suivante, si je la trouve.
Ouais, on revient.
Alors, ouais, bon, elle est assez simple, on va dire. Enfin, elle est assez difficile quand même.
Et vie familiale avec l'extérieur de Schrödinger. C'est pareil. Le chat est mort et vivant à la fois. Ouais. Non,
elle sera plutôt simple, on va dire. Donc, elle est simple.
Mais, avec des petits morceaux de.
Non, parce que je savais pas laquelle prendre, mais vu que je vous ai donné une difficile, je vais vous donner une facile. Alors, Ronaldinho, à la Coupe du Monde 2006, il n'était pas ridicule, franchement, avec son bandeau dans les cheveux, mais un ridicule accentué par ses prestations insipides sur le terrain.
Ça, j'aurais dit moins. Hein.
Oula.
C'est un ancien entraîneur.
C'est pas pour avoir dit ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vas voir, il va nous sortir, c'était Lorenzaccio.
Il est franchement
Batman contre les Arabes. Franchement, t'as une idée, je sais absolument pas qui c'est.
C'est un des entraîneurs.
Est-ce qu'il est français?
Oui, c'est un entraîneur français très connu.
Bah, c'est Luis Fernandez alors.
Ouais.
Bon,
j'allais tenter Roland Courbis, moi. Bien joué.
C'était compensé la difficile que je vous ai donnée avant. Donc,
je me suis dit que c'était un entraîneur qui l'avait eu sous ses ordres, quoi. Qu'il faut dire.
Donc, maintenant, ça va être une petite citation marin qui va en faire rire plus d'un, je pense. Donc, Roméo Chris, il n'y a pas de place pour les pitreries en défense, et je suis très sérieux, et c'est un défenseur, actuel de Ligue 1.
Allez, dans ta gueule, Roméo.
Il a dit, il n'y a pas de place pour les pitreries en défense.
Ouais, et il est très sérieux.
Et il se trouve que, et c'est un pitre qui a dit ça, peut-être.
Un petit indice, quand même.
Non. Non, mais. Il a dit que c'est un défenseur de Ligue 1.
Exact.
C'est un indice.
Bah.
Plutôt latéral.
Plutôt latéral. Arrête.
Plutôt latéral.
Bon, ben, c'est une seconde.
Je dirais, Sylvain Armand.
Eh ben, non. Donc, Habib Aurélien, une proposition à faire.
On tente un truc.
Saut.
Et là, c'est trop tard. Hein. En plus, il a dit un latéral, donc saut.
Ouais. Non, c'est en fait Ben, en disant si vraiment on était à l'opposé, c'était CR. Ah.
Le mec, il marche sur le ballon, là. Non, voilà. Non, il a raison, pas de pitrerie, hein. Il a juste démarré la moitié de la Ligue 1 et du monde, mais sûr, voilà. Le mec, il est en compétition avec Koji Nakata pour le plus gros gars de l'histoire du foot, mais sinon, ça va, quoi.
Donc
4-2 pour nous.
Donc 4-2 et pour Habib Aurélien, je cherche une assez... bon, enfin une petite simple. Alors,
et on est d'accord, c'est super international, hein, quand même, juste là.
Super international. Ouais. D'ailleurs, ça va se préciser. Donc un jour, je suis allé
c'est
à
sur
la
le mer. CS Louan Cuiseau.
C'est bon. Un jour, je suis allé à la mer. Sur le chemin, il y avait un bar. Et j'ai jamais
George
vu la mer.
George Best. George Best.
Voilà. C'était un peu un cadeau, mais celui-là, celle qui vient.
Et toi, la phrase sur Divayo qui était avec le label. Ça, c'est... Non, tu crois qu'elle était facile? Tu crois qu'elle était chiante?
Non.
On te dit un Italien qui a joué à Monaco et à Valence.
J'enchaîne avec une simple. Pour Chris Roméo, c'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile comme à l'extérieur.
C'est énorme cette phrase.
Mais ça c'est un joueur. Ouais. Ça, c'est un joueur, c'est sûr.
Non, c'est pas un animal, ça on l'avait déjà compris.
un joueur de Marseille, c'est obligé.
Joueur ou ancien joueur?
J'hésite. Oh, attends, pour qu'elle soit aussi culte. C'est fort.
Oh, moi, je vous avais dit, hein, sur la
moi,
Ligue 1.
Je proposerais Ribéry. J'ai dit avec Nasri, mais j'irais Ribéry.
Ribéry? Bah oui, c'est ça, c'est Ribéry.
Bien joué.
Donc, qui nous a ébloui son cul.
Genre, tu as vraiment douté pour cette question?
Non, mais en même temps,
c'est bon, c'est à moi dire que j'ai fait oui, celle-là, elle est mythique. C'est Ribéry dans son meilleur.
Il n'y a que lui qui peut dire ça, quoi.
On va continuer sur les assez simples, dirons-nous. Je pense que je m'améliore avec le temps. Je me donne un bon 9 sur 10. Le 10 sur 10 est pour bientôt. Donc c'est pour Habib Aurélien.
C'est quoi ce truc?
C'est qui a dit ça?
C'est la question, Aurélien.
Ah ben, les non.
Ça, c'est
tu peux répéter, s'il te plaît?
Je pense que je m'améliore avec le temps. Je me donne un bon 9 sur 10, et le 10 sur 10, c'est pour bientôt.
Je sais pas, ça doit être un truc, mais...
Est-ce que c'est un Marseillais?
Non, c'est pas Ben Arfa non plus.
Je pense à Valbuena, moi.
On peut proposer?
Donc, ouais. Proposer...
Attends, d'abord.
Ouais.
Ça, c'est de la Ligue 1, ça sent la Ligue 1, c'est le mec.
Ah oui, ça sent, ouais. C'est ça.
Jérémy Ménez?
Non. Non, c'est pas lui. Donc, Roméo et Chris, vous avez une proposition à faire?
Moi, je dirais Benzema.
Non, c'est Cristiano Ronaldo, après avoir reçu son ballon d'or dans
le 2008. Ah ouais, et ça, c'est...
Ah, d'accord.
Faut y penser. Ça, c'est du
Cristiano Ronaldo. En tout cas, j'ai aimé quand même le talent d'acteur de Ronaldo. Je fais, ça sent la Ligue 1, ça, il fait, ouais. Bien joué. Il nous a bien joué.
En même temps,
c'était ma petite fin de corps.
C'est
ma petite fan de corps. Vas-y. Oui, quelqu'un qui... Non, donc on va enchaîner donc pour Chris
c'est
Roméo
combien,
qui peuvent revenir à... Ah, il y a 5-3. 5-3 pour l'équipe.
Okay.
Alors, allez, où celle-là je cherche. C'est bon. Alors, bon, elle est moyennement facile.
Salut.
Il n'y a qu'une seule possibilité. Gagner, perdre ou faire un match nul.
Ah, putain, elle est connue, cette phrase.
Et c'est un des plus cinq plus grands joueurs de tous les temps, j'ai envie de dire.
Ronaldo, non?
C'est pas.
Ensemble, c'est Ronaldo.
Non, attends, c'est à
qui? C'est à nous.
C'est à vous.
C'est à nous. Vous venez de répondre juste.
Eh oui, tu viens de faire le truc avec Cristiano Ronaldo.
Oh putain, merde.
Bon, c'est pas grave. Allez-y quand même.
Concentration.
C'est une nationalité.
Mais là, je crois qu'il donnera la réponse.
Déjà que j'ai dit.
C'était un des cinq points tous les temps, donc le portugais.
Au moins un continent.
Ah ouais, un continent, oui, un continent.
Un continent.
Non, et où?
Comment dire?
Europe. Allemagne, il a le dire.
Beckenbauer. Beckenbauer.
Quel con. Je suis trop con. Beckenbauer. Ouais, c'est ça.
Franz Beckenbauer.
Ouais.
5-4.
Ça permet d'entretenir le suspense.
La prochaine fois, t'as qu'à lui dire que c'est le continent Kaiser. tu vas
prendre. Attends, l'aurait trouvé, c'est le plus grand défenseur de tous les temps, peut-être. Donc.
Bon, maintenant pour Habib Ouarien. Un petit qui saute va toujours moins haut qu'un grand qui saute.
Pas de vue là.
C'est pas
lui.
Un grand nom du foot français.
Rocheteau.
Non, ça je pense que c'est Laurent Blanc.
Je sais. C'est Tigana, non?
Donc, votre réponse est.
Moi je dirais pas. Moi je dirais Laurent Blanc.
Bah, je te suis, je te fais
confiance. C'était Giroud. Ah.
Bravo à Flo qui avait trouvé.
Ah. Il en a trouvé une, bravo. Ouais.
Petite question, après, peut-être, on n'a pas encore fini.
Non, pas de questions. Allez, on passe à
la... Ok, Rognetto, on t'écoute. Donc, puisque Rognetto n'est pas là, juste une petite question de Florian qui nous demande où est Bertrand Laclé. Il joue en national dans le club de... je ne sais plus le club. Il joue en national en...
De...
Depuis...
Tonon Gaillard,
exactement, voilà.
Je suis là.
L'ancêtre de Croix-Tava.
Voilà.
Mais je trouve plus. Attends, c'est quoi? Donc, on va faire celle-là.
Aronieto.
C'est bon. Alors.
C'est bon.
Donc, Monsieur Aulas devrait avoir un peu d'humilité. Il n'est pas obligé de parler dès qu'il voit un micro.
C'est à nous, là.
Avoir un peu d'humilité?
Ce serait pas le coach du Paris Saint-Germain?
Attends.
Ah non, mais j'officialise pas, hein, on en parle avant.
C'est joueur ou dirigeant?
Joueur.
Non, c'est déjà pas le coach du Paris Saint-Germain.
Et doucement, Roméo, sur les indices, hein, Rognetto. Déjà, t'as dit continent allemand, tu vas te calmer. Non, le truc du continent allemand...
C'est énorme. Ouais. Un joueur.
J'avoue que c'était pas mal, ouais.
Un joueur. Vraiment.
Oui, c'est Pikachu, évolution Pancrate.
Chris, tu proposes quoi? Moi je pense à Wiltord.
Mais je vais te suivre.
J'ai répondu à toutes, vas-y.
Ouais, ça va. J'en ai dit mais je suis Wiltord, très souvent planté, j'avoue. Je pensais aussi à Wiltord, Roméo, donc voilà.
Ah, vas-y.
Eh ben, c'était Wiltord.
Oh oui. Et Roméo, quand je pense que t'as voulu que je change ta réponse. C'est vraiment pas sympa. Genre, il tire une balle dans le pied de son coéquipier.
Donc, il y a exactement 5-5.
Oh là là. Ça va être la compta, en fait.
Ah bah non, 2 buts ce soir, 5 buts partout. À le centre.
Alors.
C'est du baby-foot, ça.
Donc, c'est là, j'ai...
On peut.
C'est un peu... moyennement chaud. Donc, je suis toujours le même joueur, celui qui fait des contrôles du menton.
Ronaldinho.
Brantao.
Ouais.
Réfléchissez bien.
Pancrate.
Non.
Oh merde. Pourquoi tu dis ça alors? Il disait ça avec tellement de...
Chris, une petite proposition au Chris.
Je sais pas, Bernard Mendy, par exemple.
Moi, j'ai une proposition, hein.
Ah.
Mais nous, on n'a rien dit, hein. Je fais remarquer. C'est à nous la question, on n'a rien dit.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, c'est à nous la question.
Mais oui, c'est à nous la question, donc on a...
Ah mince, bah allez-y.
On vous exclut les mauvaises réponses, dites-nous merci, quoi.
Francis Lasser.
Non.
Moi, je dirais, Frédéric.
Ouais, attends, t'as déjà proposé, arrête. T'as proposé
un joueur.
Moi, je dirais, genre, tu veux un Kinder Bueno et...
J'ai rien proposé.
Tatal, elle a... Elle a Carcouri.
Ah, mais, vous avez pas proposé 36 noms non plus.
Et toi par contre ça te dérange pas.
Mais vous avez pas proposé combien?
C'est clair. C'est notre question, ils ont proposé avant nous et Romu. J'ai pas proposé. C'est bon hein, c'est tu passes à la question suivante.
Bah moi je n'ai pas proposé, oui.
Mais on s'en fout, il n'y a pas une proposition par jour. Tu t'es cru au McDonald's ou quoi?
Allez-y.
Bon ça compte pas, mais dis-le quand même, Roméo.
On va passer à la question suivante, hein. Parce que je veux dire, on a déjà eu les...
Et la réponse, au moins, non?
Ben, c'était... Samy Traoré.
Merde.
Bon, en tout cas, j'avais compris que c'était un Parisien, putain. On s'y connaît fou.
Maintenant, pour Chris Roméo. Alors, franchement, Hugo Lloris, il a quand même le gabarit de Pierre Palma, vous trouvez pas?
Le gabarit de Pierre Palma.
Ça, c'est un coéquipier.
La musculature, par contre. Pardon. La musculature de Pierre Palma.
Ça, c'est un coéquipier. Un coéquipier qui serait assez baraqué parce que sinon, il s'y permettrait pas. Donc, déduction, ce serait plutôt un élément offensif de Lyon. Réflexion.
Non, raisonnement belge. Non, raisonnement belge, chers amis téléspectateurs.
Ah non, mais ça vaut de l'or.
C'est sur TV son truc là.
Ouais. Ça vaut de l'or. Roméo peut-être un élément offensif de Lyon, non? Je sais pas.
Ah donc en gros il a parlé depuis tout à l'heure pour rien parce qu'ils sont toujours pauvres. C'est direct dans les noms.
Ah, c'est Roméo qui doit.
Pas mal. Non, franchement je saurais pas te dire. Je te dirais Pierre Ménès.
Exact.
Oh putain.
Ouais, le raisonnement à la belge, je vais arrêter moi.
Franchement, chapeau. Donc ça fait 6-5.
Ouais, mais tout le mérite en revient à Roméo parce que je l'aide pas beaucoup, j'avoue. Mais en même temps, c'est pas très international non plus, il faut bien l'avouer.
Habib, tu veux toujours plus être avec moi?
Tu crois que j'étais aussi pressé, pourquoi? Quand il te dit, quand Chris a dit, c'est un mec qui a un gabarit, j'ai pensé tout de suite à lui. Et depuis tout à l'heure, j'étais là en train de
faire. Mais... Eh, tu vois, un raisonnement belge que de temps en temps, il est pas mauvais. Hein.
Non, mais toi, tu dis, ton raisonnement, ça a été. Attends. Non, mais attends. On va aller. Je vais juste expliquer. Ton raisonnement, ça a été. C'est un mec avec du gabarit, donc c'est un attaquant. C'est surtout les défenseurs qui ont du gabarit.
Non, c'était une proposition, mais c'était pas une certitude.
Tu connais des défenseurs.
Des attaquants, ils peuvent en avoir un aussi.
Ouais, connard.
On prend l'avantage.
Donc bravo. Il en reste deux.
Non, un défenseur, il osera
pas.
Il est juste à côté.
Bah, c'est la dernière.
Bah ouais, mais j'en aurais une au cas où il y a égalité. Donc c'est parti.
Oh non.
Pour Habib Aurélien, ça m'est égal de perdre tous les matchs si à la fin de la saison on est champion. Et elle est assez difficile.
Ah, celle-là je sais, celle-là je sais.
Ah, je crois savoir aussi.
Je l'ai. Ok.
Là, ça sent le Google, là. Hein. Je dis ça ou je dis rien.
Donc, une réponse.
Non.
C'est quoi?
Bah, je sais pas.
Je l'ai.
Non.
Et Chris, t'es témoin, là. Je te l'ai dit en écrit avant.
Ouais.
Vas-y.
C'est Viduka.
Qui ça?
Marc Viduka.
Exact, ouais, c'est ça. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7,
5. Il est dans ton équipe.
Donc 7-5, il y a 2 points d'écart, j'en ai plus vraiment sous la main.
Non, mais tu avais dit une dernière question aussi d'un autre côté.
Ouais, donc on va la faire quand même. Donc j'ai donné un petit indice pour le fan. C'est un des meilleurs commentateurs français que j'ai jamais connu. Donc c'est parti. Il a été fauché comme un lapin en plein vol.
Ça c'est le commentateur de LTV. Oh Greg. Non c'est pas ça. Non je dirais Thierry Gilardi.
Non. C'est un autre Thierry, c'est Thierry Roland.
Ouais, je savais pas ça. Ça me fait chier. En fait à chaque fois je connais leurs réponses et pas les nôtres.
Ouais c'est sûr.
C'est hyper saoulant.
Tu le savais.
Ouais. Attends, tu te rends compte la question que tu m'as posée, un truc culte avec j'aimerais tout perdre pour gagner le championnat, Marc Viduka. C'est comme si moi je te sors des citations de Abdeslam Jerendo. Et ensuite, ta citation c'est Thierry Roland. Thierry Roland, ouais. Quoi, c'est un mec pas trop connu en France, quoi, c'est.
Comparé à Viduka.
Qui sont les vainqueurs?
Bah, les vainqueurs, c'est vous, avec 7-5. Donc, bravo.
Avec quand même une super passe décisive de Romain qui les a un truc avec son fameux continent allemand.
Ah bah, ça fait 6-5.
Voilà.
Ça fait 6-5 si on enlève la réponse là.
Tu as entendu la phrase jusqu'à la fin, qui le remet dans le.
Oui.
Ah ouais, hein.
Psychologie.
Bah, vous étiez à la ramasse, si vous dites continent allemand.
On ne retiendra que la victoire. Merci à tous.
Bah, je crois que c'est
merci à Habib d'avoir cru en moi.
Voilà, on va finir avec. On va donc finir sur la victoire de l'équipe Chris franco-belge, Chris Roméo sur moi-même et Habib. Et je crois que Roméo et Chris voulaient rajouter un petit truc.
Vas-y Chris.
Oui, tout simplement, ne manquez pas la multisport. Ce serait sympa que demain il y ait beaucoup de monde qui participe. Si vous êtes amoureux du sport en général, on va parler de tennis, on va parler d'automobilisme, on va parler de rugby, on va parler de cyclisme. Il y aura un débat sur la loi DIC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ça risque d'être passionnant. On sera déjà 4 ou 5, mais ça ne me déplairait pas, ça ne nous déplairait pas que vous soyez plus nombreux. Le rendez-vous, c'est donc tout à l'heure à 17h ce dimanche à 17h. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre participation, Roméo.
Alors, c'est... vous voulez quoi? Une playlist les morceaux des membres de Soccers? Rap ou techno, comme vous voulez.
Okay, bah alors, on fait à la majorité.
Techno.
Moi, j'irais plutôt rap.
Allez, va pour du son de pute.
C'est quoi ça?
On va passer de la techno.
Il me copie, comment il copie toutes mes expressions, Roméo. Tu copies toutes mes expressions, en fait.
Attends, merde, ça se lance pas.